Bonjour à tous, c'est Seb. Je fais un petit message d'avant-épisode pour déjà vous remercier pour l'accueil que vous avez fait pour ce nouveau format que vous appréciez a priori. Donc ça c'est cool, j'ai pas mal de retours qui vont dans ce sens-là. Donc là vous allez écouter ce nouvel épisode en compagnie de Z, l'auteur de Space Punch. Et pour le coup, restez bien jusqu'à la fin de l'épisode. Il y a une petite surprise juste après le générique de fin. Je vous souhaite une très bonne écoute, à très vite. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga ? Je continue, je suis Seb déjà pour les auditeurs, et je continue ma série où je reçois un auteur de manga français. Donc après Charlotte Joriot pour le manga Allegoria, je reçois ZD de Space Punch, édité chez Ankama. Salut ZD, comment tu vas ?
Salut, ça va bien et toi ?
Eh ben écoute, super, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je suis très très content, surtout que pour le off, pour les auditeurs, tu sors d'une grosse convention manga, t'es un peu cramé et t'as fait quand même le plaisir de venir participer
ouais,
à l'émission.
C'était le salon du livre de Mo. C'était deux journées complètes, de 10h à 18h, donc bien cramé en effet, ouais. Et c'est lundi, là, et rebelote, on rebosse.
Donc pour placer un peu les gens dans la timeline, donc t'as préféré choisir le salon de Meaux que Paris Manga, en fait, c'est ça ? Parce qu'il y avait les deux festivals
qui étaient
en même temps ? Ouais, je crois, ouais, il me semble.
C'est probable, quoi, qu'il y ait les deux. Alors je crois que salon du Pays de Meaux, j'avais été invité il y a longtemps, et les dédicaces, en général, ça se fait au moins 6 mois en avance. Alors okay. Que Paris Manga, à chaque fois, ils s'y prennent un mois avant. Donc j'étais déjà booké.
Eh ben oui.
Et le truc, c'est que la dédicace à Mo, c'était rémunéré. Voilà. Et pas Paris Manga. Donc le choix, il est vite fait.
C'est un point qu'il faudra qu'on discute ensemble, ça, peut-être à la fin de l'émission. Parce que c'est un truc, moi, je suis plutôt favorable à ça aussi. C'est pas généralisé, mais je trouve que c'est important de commencer de plus en plus à pouvoir rémunérer les auteurs et pas juste les défrayer. Parce que tu vois, c'est il y a vraiment cette petite nuance, mais ouais, on se le garde pour après. Eh bien, écoute, pour mes auditeurs peut-être qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, et puis après on va tranquillement se lancer dans l'émission ensemble.
Ouais, carrément. Donc moi c'est Z, alias ZD. Voilà, les lecteurs ils disent ZD, moi je dis Z.
Ah, c'est Z qu'on dit. Eh ben tu vois, mea culpa. Franchement, voilà,
non, tranquille, mais c'est moi, j'ai mal fait mon brainstorming à l'époque. Quand j'ai choisi mon pseudonyme, c'était pas terrible. J'aurais dû mieux choisir, mais bref. Donc, les gens disent comme ils veulent, sinon on peut m'appeler Ziad. Donc, c'est mon prénom et c'est comme ça que me nomment en général les autres collègues dans leur interview. Voilà, je le précise parce que souvent, quand je suis introduit, voilà, ils disent Ziad et les lecteurs, ils peuvent être perdus. Oui. Genre, mais c'est qui ce type en fait ? Je vois ce nom sur aucune jaquette.
Donc voilà, c'est la première fois qu'on se rencontre, donc je ne me suis pas permis encore trop de familiarité. Mais
tranquille, moi ça me va. Donc voilà, peu importe.
Très bien.
Ça peut être entre les trois formulations et peu importe la formulation, donc pour parler de la même personne, c'est-à-dire l'auteur de Space Punch chez Ankama Edition. Voilà. Donc il y a 4 tomes actuellement de disponibles et je bosse sur le 5e.
Qu'on voit, parce que tu alimentes énormément tes réseaux sociaux, donc on peut suivre ton aventure via TRS, et on peut dire que tu es quand même assez productif quand même sur les RS, donc ça c'est plutôt cool pour ceux qui veulent.
Surtout en story Insta, pour le coup. Après en post, il y a des périodes où je poste plus que d'habitude, quoi. Là je poste pas énormément, mais ça revient petit à petit, c'est par phase, parce que en fait j'ai pas le temps de me disperser sur d'autres dessins. Il y a plein d'artistes qui arrivent à faire des challenges, des fan art, etc. Mais moi, à part les planches de mes tomes, je fais pas grand-chose, quoi.
Là, j'ai envie de te dire.
Ouais, c'est ça. C'est l'essentiel. Je fais l'essentiel.
Ouais.
Et le truc, c'est que sur les réseaux, on a envie de poster des belles pièces, c'est-à-dire des beaux dessins. Et les beaux dessins, en général, qui donnent envie, c'est des exclus. Et c'est les moments un peu croustillants du tome à venir. Et je préfère les garder pour moi, quoi.
Bah oui, et puis il faut laisser un peu de suspense. À un moment donné, on peut attendre aussi la sortie du manga. Hein. C'est
clair. Bah après, on peut comparer avec les précédents tomes. Genre, tu compares l'intérieur du tome 5 avec. Du tome 3, pardon. Je compare l'intérieur du tome 3 avec ce que j'ai posté en équivalent du tome 3 en teasing sur les réseaux. Il y a quand même un gros gap, quoi. Genre, je mets quelques jolies pages, mais en général, ça va être du premier chapitre. Et après, c'est que des cases un peu anecdotiques. sans grands enjeux, sans grands spoils.
Et ou alors tu as du mal à les remettre en fait dans la chronologie du tome. C'est-à-dire
ouais,
en fait
hein.
c'est super joli, tu vois, tu te dis ah c'est... parce qu'il y en a une ou deux quand même quand j'ai lu en fait le tome 3, je me dis ah mais celle-là je l'ai vue parce qu'elle est suffisamment iconique, tu as dû la mettre certainement en deux dans les réseaux, tu vois, et je me dis ah celle-là je l'ai vue parce qu'elle me parle. Donc c'est pour ça. Mais on va y revenir. Première question, j'ai envie de dire, pour commencer, c'est quoi ton rapport avec les mangas? Comment t'es tombé dedans, en fait, quand t'étais petit, comme Obélix, tombé dans la marmite?
Ouais, moi, en vrai, j'ai le même parcours que beaucoup de gens de ma génération, le même rapport au manga, hein, donc je vais pas faire dans l'originalité, mais voilà, depuis que j'ai 8 ans, à peu près, j'ai découvert les mangas avec Dragon Ball. Voilà.
Et oui.
Alors avant ça, j'avais découvert Gon. Donc je crois quand j'avais 6 ans, c'était mon premier manga que j'avais lu à la bibliothèque de mon école, mais je savais pas que c'était un manga.
Ben voilà, mais rien que pour ça, c'est atypique parce que moi j'entends pas beaucoup citer Gon, quoi. Enfin, on parle bien du petit dragon, hein.
Ouais, le petit dinosaure, ouais.
Le petit dinosaure,
ouais, tête, ouais, exactement, ouais. C'était mon premier contact avec le manga.
Je sais qu'on a revu dans Tekken d'ailleurs.
Exactement, ouais, Tekken 3, c'est ça, à la bonne époque. Donc c'était ça, donc Dragon Ball quand j'avais genre 8-9 ans.
L'animé, je suppose, du coup ?
Non, le manga papier.
Ah,
l'animé, j'ai découvert que au collège parce que ça passait sur des chaînes que j'avais pas, quoi, je crois, c'était MCM à l'époque, là où. Le seul endroit où je pouvais voir Dragon Ball, c'était MCM, et c'était pas les horaires, on va dire, c'était pas adapté la télé pour mon âge. En tout cas, le mélange télé plus ces horaires fait que quand j'étais en primaire, c'était plutôt le manga papier, quoi.
Bah, tu vois, rien que sur ce point-là, c'est déjà à l'inverse de ce que l'on peut entendre, parce qu'aujourd'hui, tout le monde se berce un peu, tu sais, de la découverte des mangas par le Club Dorothée, par les animés.
Ouais.
Moi y compris, hein, parce que j'ai découvert Dragon Ball avant tout en animé, et après j'ai lu le manga. Toi, t'as commencé direct par le papier. Donc, tu vois, déjà,
c'est ça, ouais. En même temps, dans ma génération, Club Dorothée, c'était fini. Moi, mes dessins, mes chaînes d'enfance, c'était plutôt Canal J, Télétoon, etc. Quoi. Voilà, parce que moi, j'ai grandi au début, mon enfance, c'est le tout début des années 2000.
Donc t'es quoi, t'es un 96
94, dans ces eaux,
Ok, d'accord, t'es de la même génération que mon binôme dans le podcast, que Val, qui lui est de 95. Donc à mon avis, vous avez les mêmes refs, je pense.
Exactement, voilà ça. Du coup, moi, c'était les tomes. Je crois que j'étais tombé sur un petit tome, tu sais, les fascicules orange que tu trouvais en kiosque. Voilà, j'étais tombé là-dessus, j'avais emprunté un pote et j'étais là, waouh, mais c'est quoi ce tome de fou? C'était le combat de Gohan contre Boo. Genre Gohan quand il revenait.
Après sa préparation avec l'épée.
Après sa préparation, exactement. Quand il était archi fort et qu'il se battait contre Boo qui avait absorbé Piccolo et Gotenks.
Et oui.
C'était ça. Et tu sais, en plus, tu vois ça, genre tu transitionnes de Tintin, les Schtroumpfs, etc. Des mecs archi badass, plein de muscles qui se balancent des boules d'énergie avec des explosions et qui se transcendent en termes de divertissement. Ça n'a rien à voir, quoi.
Claire.
Donc c'était ça. Et puis après, j'ai commencé à acheter les petits fascicules au kiosque. Les petits fascicules orange, j'avais commencé pendant l'arc Freezer et puis je suivais c'était toutes les deux semaines ou tous les mois, je ne sais plus. Que ça sortait, je crois que c'était une fois par mois.
Ouais, je me souviens plus de la périodicité des trucs-là. Je sais que c'était vendu 3-4 balles, un truc comme ça. Je sais pas si on avait les euros.
Ouais,
3,90€.
Ouais, 3,90€, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Il me semble.
J'en ai
soit
je dois avoir les 5-6
francs.
Premiers. Ouais, c'est ça, 18 francs, putain.
Ouais, à l'époque. Ouais.
Aïe, aïe, aïe.
Donc voilà, c'était ça. Et puis après, la suite, assez classique. Hein. J'ai commencé à lire de plus en plus de mangas différents. Bon, après, les mêmes références, hein. Naruto, FMA, Bleach, un peu One Piece, etc. etc. Donc mon premier contact avec le manga.
C'est ça qui t'a donné... Enfin, tu dessinais déjà en parallèle étant plus petit
je dessinais déjà. Okay. J'avais déjà une affinité avec le dessin. Alors avant Dragon Ball, j'aimais bien dessiner des dragons. Quand j'ai découvert Dragon Ball, je dessinais ensuite des dragons. En fait, je refaisais des scènes de Dragon Ball, mais en remplaçant les personnages par des dragons et balançais des kamehameha par la bouche et tout. Voilà, ah ouais, c'était mon délire. Excellent. Après, bon, j'ai arrêté, je commençais à faire des personnages et à recopier certaines scènes.
Et on est tous dans le mimétisme, hein, je pense, enfin tous. Ouais. Enfin, même étant, après, moi, j'ai pas percé. Hein. Je me suis rendu compte que j'avais pas trop de talent pour ça, donc je préférais...
Oh, chacun son talent.
Oui, 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 mais bon, il y a quand même un petit niveau, quand on va dire ça comme ça.
Ouais. Non, faut pas lâcher, quoi.
C'est ça. Non, non, mais après, moi, j'ai vu que j'étais pas trop fait pour ça, et puis encore une fois, je préfère être du côté lecteur. Pour ouais. Vivre les émotions que vous arrivez à transmettre plutôt que l'inverse. Et encore une fois, moi, je tire toujours mon chapeau au boulot que vous pouvez, en tout cas, amasser pour arriver à un tel résultat derrière, en tout cas. Et derrière ça, est-ce que du coup, pour arriver justement à ce métier, parce que j'ai un peu écouté les interviews que tu as données à droite, à gauche, sur comment tu es arrivé dans le milieu du manga. T'es un peu un parcours, on va dire, atypique. On peut essayer de rappeler un petit peu ce que tu faisais avant de te dire je me lance dans le manga, en fait, quoi.
Avant d'être auteur de manga, j'étais ingénieur en conception mécanique, pour être plus précis. Quoi, en effet, parcours assez atypique. Après, tous les parcours sont atypiques.
Oui.
Il y a de tout, hein. En manga, il y en a qui n'ont pas le bac, il y en a qui ont juste le bac, il y en a qui ont diverses formations, il y en a qui ont arrêté pendant leurs études, qui sont consacrés à fond dans le manga, et en tout cas, on est arrivés tous au même point d'arrivée. Mais ouais, mon parcours, alors c'est vrai, j'en parle déjà beaucoup en interview, mais pour essayer d'être synthétique, moi, je dessinais un petit peu au lycée, mais pas plus que ça. Je faisais pas d'ancrage, j'avais aucun réseau, je connaissais aucun autre artiste, donc j'étais pas parti pour être auteur de manga. En fait, j'envisageais même pas la possibilité. Je ne connaissais pas d'auteur français non plus. Et je m'engage, comme j'avais des bonnes notes en sciences, vers une formation un peu par défaut d'ingénieur. Bah, je me suis dit, ouais, ingénieur, il y a ce côté, on invente des trucs, on ouais. crée des choses, un peu imagination. Donc j'essayais de raccorder, mais au final, c'est pas tant ça. Et en 2013, donc j'étais à Bac plus 1. Et dans mon timing, je passais plus de temps à jouer à des jeux vidéo qu'à dessiner. Donc c'est parti pour un peu une sorte de parcours par défaut, pas hyper.
On en parlera tout à l'heure des jeux vidéo, parce que je pense que je vois lesquels à peu près tu jouais, mais on en discute après.
ça marche. Et c'est en 2013 quand j'ai gagné un concours de dessin, plus spécifiquement le concours de création de perso des bonus du tome 1 de Radiant.
Oui, déjà à l'époque. Eh ben oui, ok.
2013, ouais, donc j'avais 19 ans. Je découvre le manga à la Japan Expo, je me fais dédicacer, donc premier contact avec un auteur français, je me dis ah c'est possible, et puis je participe au concours et je remporte la première place, et là je me dis ah il y a moyen.
On est d'accord que Tony Valente dans la décision qui a été de te donner la première place a participé au choix de ton personnage et de ton dessin.
Ouais, c'est ça, ouais.
Ok,
exactement. Donc,
un peu adoubé par un des kings du manga game français.
Ouais, c'était mon premier fan art et pas des moindres. Et du coup, il a redessiné mon perso. Depuis ce jour-là, je me suis dit, il y a un moyen, il y a un truc à développer, il y a un potentiel. Donc, je vais commencer à charbonner un peu plus le dessin et à passer moins de temps sur les jeux et dessiner plus, quoi. Et là, j'ai envisagé potentiellement d'en faire mon métier.
T'es d'accord que tu es complètement autodidacte?
Ouais, 100%, ouais.
Ouais, t'as pris aucun cours à côté ou passé par une école de
non,
dessin?
Non, okay. De toute façon, c'est pas pertinent. Okay. Moi, souvent, en dédicace, il y a pas mal de parents avec leurs enfants ados ou jeunes enfants qui me demandent quel est mon parcours. Sous-entendu, quel est mon parcours artistique? Quelle bah école oui. de BD ou de manga j'ai fait? Je leur dis, en fait, je suis ingénieur. Donc, rien à voir. Et moi, les parents, à chaque fois, je leur déconseille d'inscrire leur élève à une école de BD, surtout oui. De manga, quoi, parce que c'est pas pertinent, ça coûte cher pour aucune vraie plus-value, quoi.
C'est rigolo parce que ça a été le sujet de discussion qu'on a eu avec Charlotte Joriot, qui fait Allegoria, ouais. Et qui a eu exactement le même raisonnement que toi sur elle l'a fait parce qu'elle a eu cette opportunité de le faire, mais avec du recul, elle le conseillerait pas, quoi. Parce que ça ouais. lui a apporté des choses, ça lui a ouvert des portes à droite, à gauche, mais c'était beaucoup trop cher et peu de retour sur ce que vraiment elle a engendré comme argent, etc., quoi, tu vois.
Ouais. Donc, franchement, autant faire 4 ans ou 5 ans chez soi et économiser 7000 euros par an. Et en plus, on va aller vraiment à l'essentiel parce qu'en cours, dans ces écoles-là, surtout les écoles de manga, parce que elles n'ont pas fait leurs preuves encore, très peu. Ça dépend, c'est très variable d'une formation manga à l'autre. Il y a quelques écoles vraiment pas très connues qui surfent un peu sur la vague, qui profitent du créneau pour se faire quelques sous.
Oui.
En fait, eux, c'est pas une approche qui est très pertinente. Ils vont essayer de, ils vont pas aller à l'essentiel. Nous, les auteurs français, quand on doit enseigner quelque chose, on va vraiment aller dans le concret, direct. On est très terre à terre, pas de fioritures. Alors qu'en école, ils ont des quotas d'heures à faire justifier. Donc, en fait, ils vont gonfler. Ils vont diluer le savoir en rajoutant des exercices qui servent à rien. Et du coup, par exemple, pour des trames, pour apprendre les trames, moi, je prends un élève, en une heure, c'est fini. On a tout vu.
Okay.
Voilà, et on passe à la suite. Alors qu'en école, ils vont passer une semaine entière rien que là-dessus.
Oui.
Parce qu'il faut justifier des heures de cours.
Ouais, bien
voilà.
Sûr.
Donc voilà, c'était une petite digression. Après, bon, ça, c'est intéressant parce que tous les sujets se recroisent. Donc c'est facile de passer d'un sujet à l'autre. Mais bon, on pourra peut-être en reparler après.
Et puis de suite à ce concours-là, et de fait de remporter le concours avec Radiante, c'est ça qui, du coup, t'as mis le pied à l'étrier pour continuer
voilà.
Et avancer.
Peut-être que si j'avais pas gagné le concours, et que si j'avais pas été sélectionné, bah, j'aurais pas forcé dans le dessin un manga. Peut-être que j'en serais pas là aujourd'hui.
Ouais.
Peut-être que je serais là en train de faire... je serais ingénieur échelon zéro dans une boîte avec un taf qui m'intéresse pas. Voilà. Je serais peut-être, déprimé ou bref, j'aurais pas une vie aussi intéressante que maintenant, quoi.
C'est ça.
Et donc j'ai commencé à dessiner plus sérieusement et à me faire un réseau en parallèle de mes études, tout simplement. D'abord les études, puis les stages de fin d'études, mon taf d'ingé, parce que j'ai quand même après avoir fini mon diplôme, chose que j'ai failli lâcher. J'ai quand même bossé. J'ai passé 6 mois à trouver un taf correct parce que je voulais pas bosser dans une SS2I. Qui exploite la majorité des jeunes étudiants qui viennent, qui sont fraîchement diplômés. Et j'ai bossé chez L'Oréal, j'ai trouvé un CDD. Alors,
okay.
C'est pas un CDI, mais c'est un CDD, mais je me suis dit, bon, bah, c'est mieux que rien, vas-y. Hein,
c'est un boulot. Tout à fait, ouais.
Ça a duré 8 mois et demi, ça se passe bien. À la moitié de mon CDD, entretien de mi-parcours, on me dit que je devrais montrer un peu plus d'intérêt pour la profession, dans le sens, je suis pas assez passionné. Alors, je comprends
d'accord.
Pas tout de suite parce que je passe mes journées à poser plein de questions. En fait, c'est des questions par rapport à ce que je dois faire et mes missions, genre pour survivre,
oui.
En fait, pour pouvoir accomplir ce qu'on attend de moi. Mais je vais pas être proactif en mode me renseigner un peu sur les projets des autres, ce qui me concerne pas, tu vois. Genre, moi, je fais mon taf et puis c'est tout. Hein.
Ben oui, mais c'est déjà bien et c'est le minimum qu'on demande. Et à un moment donné, tout le monde peut pas avoir la personnalité
mais,
pour, entre guillemets, être ouvert. Bien sûr.
En tout cas, le relationnel était hyper bien, tu vois. Les produits en soi, ça m'intéressait moyen, mais les gens avec qui je bossais étaient sympas, donc c'était surtout ça, voilà, qui me plaisait. Donc je me donnais. Et ensuite, un mois avant la fin de mon CDD, on me dit que c'est pas reconduit en CDI. Alors j'ai essayé de faire tout pour, mais ça n'a pas été reconduit. On m'a dit que j'étais pas assez passionné. On me suggère d'aller vers un métier plus graphique. Voilà.
Okay.
Et du coup, je me suis dit, ok, tu sais quoi, je vais arrêter de tourner en rond, je vais aller chômage, prime de fin de CDD, en plus, ça fait plaise, et je vais me lancer dans un dossier d'édition, parce que si je le fais pas là, je ferai pas après, quand j'aurai plus de contraintes, etc. Donc, voilà.
Là, on est en quelle année, quand on s'est
là, on était en 2018.
Ah oui.
Ouais.
Okay.
J'étais diplômé septembre 2017. Et j'ai bossé de mars à fin octobre, il me semble.
D'accord.
Ou de février à fin octobre 2018, ouais. C'est ça.
Ouais, et on est plus très loin de entre guillemets, de la timeline de la sortie, de la création de Space Punch, en tout cas.
C'est ça.
Ça ouais.
Et le CDD, ça m'a bien arrangé les choses, parce que si c'était un CDD, il aurait fallu que je démissionne, machin, ça aurait peut-être traîné un peu en longueur. Et là, je me suis dit, allez, c'est parti. D'autant plus que j'étais déjà validé par mes pairs, entre guillemets, même si j'étais pas encore artiste-auteur ou que j'avais pas signé. Mais les gens du milieu, ils me disaient, vas-y, lance-toi. Et j'osais pas trop passer la passerelle entre le monde de l'ingénierie, le statut cadre et artiste-auteur. D'autant plus que c'était la période où la Ligue des auteurs pro communiquait beaucoup. Pour dire à quel point c'était craignos, le métier d'auteur. Et toi, tu passes de statut cadre, avec une sécurité de l'emploi, à ça.
quelque chose de potentiellement précaire. Ouais, on est d'accord. Ah ouais. Non, mais c'est clair.
Plus que potentiellement, mais bon.
Oui.
Et d'autant plus que moi, à l'époque, j'avais besoin que mes parents me soutiennent. Alors, okay. Ça peut. Il y a des gens qui comprennent, des gens qui ne comprennent pas. Dans le sens où c'est ma vie, c'est moi qui décide. Tu
étais encore chez eux à ce moment-là ?
Ben, à ce moment-là, ouais.
Donc ça peut s'entendre.
C'était un CDD, c'était pas un CDI.
Ah oui.
C'était quand même vachement bien placé chez mes parents par rapport à mon emploi, du coup.
D'accord.
Et comme la recherche d'appartement sur Paris, c'est un peu laborieux, quoi.
Oh oui.
Et c'était un CDD, je me suis dit, où est-ce que je le prends, quoi, le logement aussi. Il faut que ce soit pratique pour le déplacement, machin. Bon.
Puis après, si tes parents étaient ouverts pour te laisser prendre ton envol tranquillement et t'assurer le coup derrière, et puis bon,
ouais.
Ça les détermine, je comprends que tu aies besoin de la validation aussi d'eux pour justement te permettre de te lancer dans ce nouveau projet qui peut être un peu risqué. Donc derrière, forcément,
On va dire qu'ils étaient à l'aise.
Moi, je trouve pas ça choquant.
Ouais, ils étaient à l'aise dès que j'ai signé, surtout. Avant, ils étaient un peu comme ça, en stress.
Ah bah oui.
Je me dis, oulala, qu'est-ce qu'il va faire ? Là, ça fait 5 mois qu'il fait son dossier. C'est long, là. Quand est-ce qu'il signe ? C'est bon signe ou pas ?
T'as mis longtemps ? Enfin, est-ce que t'as ciblé plusieurs maisons d'édition ? Ou du fait de ce lien un peu que t'avais avec, du fait qu'il gagnait le concours d'un auteur déjà édité chez Ankama, est-ce que ça t'a ouvert des portes plus facilement pour Ankama ou du coup tu as quand même tapé à beaucoup de portes avant vraiment
Par définition, par défaut, quand on envoie un dossier, il faut l'envoyer à tout le monde.
Oui, on est d'accord.
Donc j'ai envoyé à toutes les maisons d'édition afin d'avoir un bras de levier quand même dans la négociation.
Oui.
Et après, du point de vue d'Ankama, alors l'éditrice, c'était donc Élise. C'est celle que je connaissais le plus et le mieux parce que j'avais été présenté quelques années auparavant, genre 3-4 ans avant, peut-être. On va dire 3 ans avant. On va dire peut-être 2-3 ans avant, allez. Par d'autres auteurs de chez Ankama. C'est-à-dire, okay. Je vais voir des auteurs en dédicace. Je présente mon book.
Ben
voilà,
oui.
C'est un petit lutin avec des dessins à l'ancienne. Je présente et puis de fil en aiguille, il me présente à l'éditrice et du coup, on garde contact et je dis bon là, je suis dans mes études ou dans mon stage ou dans mon emploi, mais si jamais j'existe. Donc le premier contact, il s'est fait comme ça. Voilà, je m'entendais bien avec elle, le feeling était cool et puis c'est vrai que ouais, je m'entendais bien avec les auteurs de chez Ankama. Et le fait que, après, pour la négo... Enfin, ça n'a pas vraiment joué dans la négo, mais c'est sûr que pour eux, le fait que je signe chez eux, par rapport à Tony Valente, ça fait un peu un petit storytelling un peu sympa, tu vois.
Ah bah oui, niveau marketing, tu alimentes le marketing dans le cadre.
Voilà. Après, surtout que... Non, sur mon tome 2, il y a un petit bandeau avec un mot de Tony, avec un petit fanart.
Okay.
Donc ça, ça aurait peut-être, je sais pas si ça aurait été possible, si ça avait été chez un autre éditeur. Mais c'est sûr que voilà, ça fait un peu la boucle est bouclée du côté de Shankama, quoi. Donc,
oui, et puis ça fait, ouais. Tu vois, je sais pas comment ça a été communiqué parce que malheureusement je l'ai pris. Je vais être honnête avec les auditeurs, j'ai découvert, je me suis l'étroite relu. Alors j'avais lu le tome 1 parce qu'on me l'a prêté il y a à peu près 4-5 mois de ça. J'avais beaucoup accroché, puis j'ai profité du pack découverte pour lire les autres et puis me relire le tome 1 et puis lire jusqu'au tome 3. Donc il me manque juste le tome 4, mais je vais me mettre à jour bientôt, promis. Et c'est vrai que j'ai loupé un peu cette vague de marketing au début de lancement. Mais j'imagine comment ça a pu être. Ils auraient pu très bien jouer sur le fait que l'auteur qui a été validé par Tony Valente parce que tu as remporté le concours il y a quelques années, toi. Ils auraient pu la jouer un peu comme ça aussi. Je sais pas si ça a été fait comme ça, mais.
Je pense pas. J'ai pas mémoire qu'ils aient vraiment insisté là-dessus.
Oui, c'est un peu
une anecdote.
Ouais, vas-y.
C'est plutôt, dans le sens, c'est plutôt anecdotique.
Ah oui, d'accord.
Comme point par rapport à la com, on va dire que c'est pas le plus important à mettre en avant. C'est un petit plus, voilà. Mais que surtout moi, je mets en avant, en fait, parce que c'est lors de mes interviews, comme demande mon parcours, je commence par ça, quoi.
Bah oui, bien sûr.
Donc c'est moi qui le mets en avant, donc ils n'ont pas spécialement besoin d'insister là-dessus, quoi. Ils vont surtout être centrés sur la série, quoi. C'est-à-dire ils vont faire la promo de Space Punch en parlant de Space Punch, du manga, pas en parlant de Tony, quoi.
C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même un phénomène qui est que, ok, t'as la maison d'édition qui t'aide, qui te pousse, qui fait un peu de com et compagnie, mais c'est vrai que si l'auteur n'est pas lui-même investi à communiquer par les réseaux sociaux, montrer qu'il est là, faire un peu de teasing, des choses comme ça, je pense qu'aujourd'hui, ça contribue énormément au succès de certains mangakas français. Et je pense plus à la nouvelle génération. Moi, je suis d'un âge où j'ai connu les premiers manga français, et malheureusement il y en a beaucoup qui sont restés sur le carreau, même des collectifs de mangas qui malheureusement n'ont pas survécu, et là on redécouvre une nouvelle vague avec pareil, il y a des élus, il y a des perdants malheureusement, des gens où ça prend pas, et on a quand même une génération quand même globalement d'auteurs qui arrive à s'affranchir un peu vraiment du classique manga japonais, comme on peut l'entendre, et qui n'est pas trop en train de singer, on va dire, ce que font les mangakas japonais, et qui mettent leurs pattes à eux. Je trouve aujourd'hui c'est peut-être ça qui fait la différence, et qui fait qu'on commence à avoir pas mal d'auteurs talentueux qui ont toutes les armes pour percer et puis pour conquérir peut-être le monde. On voit Tony Valente qui commence à s'exporter, enfin, pas qui commence, mais qui s'exporte déjà, pas les autres, quoi, tu vois.
Ouais, Tony, ça fait un petit moment hein, depuis.
Ouais.
Ça fait 10 ans.
Ouais, il est venu, pour moi, il est venu juste après. Pour moi, c'est la petite génération juste après Renaud Le Maire. Quand je dis génération, je ne sais pas comment on peut mettre les années.
J'ai l'impression entre 2006 et 2013, il n'y a pas eu de gros succès.
Non. À part Renaud Le Maire.
À part Dreamland. Il n'y a eu pas grand-chose. Après, il y a eu une petite vague vers 2012-2013.
Tu as connu l'époque Shogun, ça te parle ?
Non.
Qui était en fait ils ont voulu faire un peu un truc à la Jump, qui était hyper ambitieux. Moi, j'adorais le concept et je lisais beaucoup de leurs séries. Et c'était un petit magazine de prépublication que tu achetais. Et après, tu pouvais retrouver les tomes en prépublié. C'était à l'époque, c'était Guillaume Dorisson qui était responsable de la responsable éditoriale de ce label-là. Et malheureusement, tu vois, je crois que c'était les Humano, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est les Humano Associés qui avaient lancé ce truc-là. Et malheureusement, ça n'a pas pris, quoi. Et c'est dommage, parce que il y a plein de trucs hyper sympas.
De ce que j'ai cru comprendre, ils se sont mal débrouillés avec leur budget. Ils ont publié trop d'auteurs.
C'est ça, je pense.
Ils auraient dû en publier moins et concentrer, du coup, mettre plus de moyens sur chaque série, quoi.
Je pense qu'en fait, ils ont voulu gérer le manga comme on gère de la BD. Pour certains trucs, et malheureusement le manga c'est un public particulier, et voilà, donc bref, c'est mais c'est dommage. Au moins ça, est-ce que s'ils n'avaient pas fait tout ça avant, s'ils n'avaient pas essuyé les plâtres avant, est-ce qu'aujourd'hui ça serait comme ça aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire, on serait peut-être encore plus en retard. C'est peut-être une souvent des questions que je me pose, je me dis.
Après de l'époque Humanoïdes Associés, j'ai l'impression alors je les connais très peu, mais je connais que Shonen. Il me semble qu'il avait fait BB Project.
Exactement. Pas que, il a fait Omega Complex aussi, si je dis pas de bêtises.
Omega Complex, c'était ça, ouais.
C'était super.
Donc c'est lui qui est passé, qui a survécu, quoi. Mais à part ça, voilà.
Guillaume faisait des scénarios déjà à l'époque, Guillaume Dorisson. Et je sais qu'il en a refait encore, avec notamment, t'as peut-être connu Talento 7.
C'est lui
qui est au scénario de ce truc-là, sous pseudo, mais il est derrière ce truc-là. Et c'est super d'ailleurs, Talento 7, j'aime beaucoup le titre. Mais malheureusement, il ne saura pas dépasser 3 tomes, tu vois. C'est ça qui est dommage. Ouais. Mais bon, en vrai, c'est les lois du business et de la vente de tomes.
Marché.
Et du marché. Et puis savoir si l'éditeur est patient ou pas patient, rentre dans ses frais, rentre pas dans ses frais. Ouais. Voilà, tous ces trucs-là. Bon, après, on pourra en parler un petit peu pour ton cas et en Kama, si tu veux. Mais voilà. Ok, donc là, du coup, comment c'est arrivé, du coup, cette nouvelle t'as eu plusieurs réponses positives. Est-ce que, du coup, tu finis par choisir Ankama ?
Ouais, oui, j'ai eu 5 réponses positives.
Ok.
Au total, donc j'ai eu l'embarras du choix.
Ça, c'est top.
C'était cool, et puis, j'ai choisi Ankama.
Ok.
Tout simplement. Voilà, j'ai fait un petit tableur Excel pour m'aider à choisir. dis-moi tableur, quel est l'éditeur avec le meilleur score ?
C'est ça. Fais la colonne des plus et des moins, et puis terminé. <C'est ça.
rire> J'ai fait un bulletin de classe.
Ouais. Un peu, Et puis le bon élève, c'était
Cloef. C'est ça.
On sent l'ingénieur quand même, hein, le côté Cloef, chiffres et tout ça.
Non, Excel, c'est un outil vachement pratique.
Juste oh oui, quand on sait bien l'utiliser, ouais. C'est clair. Il y a le côté basique où c'est juste un truc pour faire des jolis tableaux. Et puis après, tu peux mettre un peu de formule et ça peut prendre un peu plus de vie.
Ouais.
Ok, alors du coup, moi, ce qui m'intéresse, on va peut-être rentrer directement dans le vif du sujet. Une petite info juste pour nos auditeurs. Bon, je le vois à l'écran, mais tu vas le redire. Tu dessines, est-ce que tu dessines numériquement? Est-ce que tu dessines directement au crayon sur feuille? Ma petite réponse, mais est-ce que tu peux expliquer ta manière de dessiner et comment est-ce que tu dessines aujourd'hui?
Ouais, alors jusqu'au tiers du 2, je bossais au tradi.
Ok. Au
traditionnel pour l'ancrage. Pour l'ancrage seulement, pour tout ce qui est storyboard et crayonné, ça a toujours été en numérique parce que je vais faire valider mon storyboard. Donc pour les modifs, c'est beaucoup plus simple de modifier un storyboard numérique que de modifier un storyboard papier, surtout si tu as pas mal d'allers-retours et de modifs à faire. Sur le tome 2, j'ai switché pour le full numérique parce que le tradi, ça me gonflait. Parce que tout simplement, parce que mes originaux étaient pas terribles, étaient un peu vides, puisque tous les décors urbains, donc c'est de la ligne droite et de la perspective, beaucoup de perspectives justement, et ben la règle, c'est chiant en fait.
Ouais, c'est chiant ce que j'allais dire.
Donc de toute façon, mes décors urbains, je les faisais au numérique, mes aplats de noir, mes trames, mes bulles. Mes onomatopées, mes traits de vitesse, mes effets de particules, etc. C'était tout le temps au numérique. Ce qui fait qu'au tradi, bah, il n'y avait que mes cases avec quelques têtes de perso, sans les aplats noirs, sans rien.
Ok, d'accord.
Donc, c'était un peu vide. Je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de s'embêter à commander du matériel du Japon avec les frais de douane, etc. Pour commander du papier qui bave et aussi la phase où tu dois scanner. Tu dois passer une après-midi ou une journée entière à scanner la moitié de ton tome ou un tome entier. Ça prend une plombe par feuille à scanner, tu vois. Ça peut prendre jusqu'à 4-5 minutes hein, quand même. Et ensuite, il faut que tu appliques tes corrections de teinte et de luminosité pour passer du niveau de gris à du noir et blanc sans que tes petits traits sautent au scan. Et puis, il ne faut pas que tu scannes foire. Parce que si tu as passé 2 heures à scanner un lot de 50 pages et que tu te rends compte que tu as un liseré blanc qui apparaît, qu'il faut tout recommencer, tu as envie de...
Alors, t'as un vrai gain de temps, je pense, aujourd'hui. Ouais, puis je pense qu'aujourd'hui, malgré tout, même si il y a des puristes qui vont te dire c'est quand même mieux de dessiner avec un crayon de papier et, tu vois, puis à la main.
Bah, c'est mieux selon leurs critères.
C'est ça, on exactement. Non, mais c'est ça.
Il faut être productif, quoi. Il faut enchaîner.
Exactement, tout à fait.
Si je voulais... tout faire full tradi, bah je pourrais, mais ça me prendrait 2 ans pour faire un tome.
Et là aujourd'hui, tu mets combien de temps pour faire un tome?
Ça dépend, mais entre en moyenne 9 mois.
C'est un bon rythme quand même. Et 240 pages par tome, entre 220 et 240.
J'ai sur les 5 tomes, il y en a 3 qui font 240, ouais. Et le plus petit, il fait 204.
Voilà. Et auditeur, je vous laisse faire le calcul à la maison. Combien ça fait de pages par mois? Ça fait quand même un peu de pages par mois, mine de rien.
Alors, sachant que, alors en vrai, c'est pas, tu ne divises pas 240 par 10. Parce qu'en fait, les premiers mois, ça va être storyboard, ça va être scénario et storyboard. C'est-à-dire que bah, tu ne fais pas tes pages au propre, quoi. Donc, à la fin, en fait, il te reste genre 5 ou 6 mois pour faire tes 240 pages.
Tu travailles par chapitre ou est-ce que tu fais l'intégralité de ton tome en storyboard avant et ensuite, après, tu passes à la finalisation?
Ouais, je fais ça. Tout mon scénar.
Pour 9 mois, ça représente combien de temps à peu près sur 9 mois? C'est quoi? C'est 2 mois de boulot? 3 mois de boulot?
Alors, c'est dans ces eaux-là. Alors, déjà, le scénar, ça prend entre 2 semaines et 1 mois et demi, selon si je patine ou pas. Parce que des fois, t'as des pannes d'inspi et.
Ah bah oui.
T'es bloqué et tu peux rien faire d'autre.
Mais c'est bien de le rappeler parce que t'es tout seul, hein, faut le dire. Hein.
Ouais,
t'es vraiment tout seul de A à Z, on est d'accord. Hein. T'as pas d'assistant, quoi que ce soit, tu fais tout seul.
Alors, j'en ai aucun sur le 1. J'ai eu un petit peu d'aide sur le 2 et pas mal à partir du tome 3 et 4. Donc, j'ai des assistants.
Ok.
Mais c'est pas la même part de taf d'un tome à l'autre. Sur le 3, j'ai eu vraiment beaucoup d'aide. Parce que le tome 3, C'est un tome qui se passe à 90% dans un... C'est un match de boxe. Donc, c'est un... dans un stade. Donc, c'est un décor fixe. Donc, t'as un gars qui m'a fait la 3D du ring et des projecteurs et des gradins.
OK.
Et puis, il y a une autre qui m'a fait... Donc, c'est le... celui qui m'a fait la 3D, c'est Alexandre Demacias qui bossait avec Guillaume Lapeyre sur City Hall, puis les légendaires saga en ce moment. Et c'était Cynthia Le Mans qui m'avait aidé sur, pour faire la foule, justement. Donc, tous les petits persos dans le fond, c'est elle qui l'a fait. Après, okay. Elle n'est pas assistante, mais elle a fait ça pour me dépanner.
Ah ouais, c'est vrai que c'est un travail hyper minutieux. Là, je suis sur une page en question. On voit la foule derrière. Et c'est vrai que ouais, c'est mine de rien, c'est du
temps. Ah, moi, ça me fait gagner un temps fou. Hein. Et ah bah surtout oui. Du temps de cerveau libre. Hein, parce que surtout pour la foule, rien que de devoir réfléchir à savoir quelle tête faire à chaque fois pour chaque PNJ et changer un petit peu la tête, l'expression, la tenue, la coupe de cheveux. En soi, à dessiner, c'est pas long, mais juste à réfléchir, à se prendre la tête, c'est une torture. Donc, ouais. Avoir quelqu'un d'autre qui le fait, c'est vraiment un gros bénéfice. Quoi. Un gros bénéfice, pardon.
Ouais,
et sur le tome 4, après, il y a un peu plus de monde qui est intervenu, mais c'est, pour chaque personne, c'est épisodique. Genre, il y a une personne, elle va faire le décor d'un chapitre entier. Une autre, elle va faire... genre 8 pages, une autre personne elle va faire 2 pages, il y a même une personne, elle fait juste une seule page, tu vois. Mais il y a son nom quand même dans les assistants.
C'est ce que j'allais dire, ils sont tous crédités à la fin du manga,
ouais.
On a leur nom qui apparaissent, donc ouais.
Tous ceux qui interviennent, ils sont crédités, bien sûr, ouais. Ils reçoivent 20 tomes et tout, et ils sont payés. Normal,
on n'en doute pas, on n'en doute pas.
Et donc aussi, bah ouais, le numérique, c'est quand même plus pratique quand tu bosses avec des assistants. Surtout à distance, quoi.
Ouais, il n'y a pas de risque de perte de matériel. Et puis, oui, comme tu dis, ça évite d'être tous dans la même pièce, un peu comme comme peut faire ouais. Ça, faire mangaka
De toute façon,
japonais,
ça, c'est pas possible ici.
Non,
c'est mort.
Impossible, c'est mort.
C'est possible en France.
Non, la seule chose qu'on réutilise aujourd'hui du manga, c'est ce que je dis. Moi, aujourd'hui, c'est une discussion qu'on avait avec Calon, qui fait Talento 7.
Ouais.
C'est le manga, avant d'être un objet, c'est avant tout une forme de narration. Et aujourd'hui, vous utilisez ce média-là parce que c'est une forme de narration ultra dynamique que t'as pas forcément dans la BD franco-belge classique. Quand tu parlais de Tintin tout à l'heure, bon, bah, Tintin, quand il court, c'est pas le truc le plus,
ouais.
le plus dynamique du monde, quoi. Voilà, c'est sympa, Tintin. J'aime beaucoup Tintin, mais je me dis, voilà, c'est pas le manga non plus, quoi. Après, ouais. Encore une fois, tu peux pas non plus avoir le même fonctionnement qu'au Japon avec le sensei sur sa grande table et puis son armée d'assistants en train de bosser sur les pages, etc. C'est pour ça aussi, ça prend un peu plus longtemps à faire des tomes en France et puis voilà.
Sachant qu'on dort plus que 3 heures par nuit et on n'est pas des équipes de 5 ou 6 à temps plein sur le manga, quoi. Et en ouais. plus, on doit, sans pouvoir en reparler, mais des contraintes du métier. En tant que Français, c'est que on n'a pas les moyens humains. En même temps, on doit faire des dédicaces un peu partout.
Eh oui.
Tu vois. Et en fait, on est dans une situation où on nous demande plusieurs choses contradictoires.
Ce que font pas les auteurs japonais, ou très peu.
Bah ouais.
Non, on est d'accord.
Ils font presque zéro. Hein. Presque zéro, parce qu'en plus, les auteurs japonais, souvent, ils sont sous pseudo, ils veulent garder leur
anonymat,
etc. Bien sûr. Parce qu'ils sont dingues, hein, les fans japonais. Hein.
Ouais.
Donc, on doit faire beaucoup de dédicaces pour la com parce qu'on n'a pas le rayonnement japonais.
Bien sûr.
Sauf que ça nous prend du temps.
Des week-ends,
et le
tu peux
temps,
le dire,
c'est
ce qui vous ouais. manque et ça vous bouffe au week-end. Hein. C'est
ça clair, nous bouffe nos week-ends. Donc, on n'a pas de temps libre. Donc, on enchaîne boulot, 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 week-end dédicace. Moi, mon week-end, il a commencé hier de 20h à 22h. Voilà, et c'est fini. Et là, ce matin, donc on est lundi, là, rebelote. Donc on nous demande d'être partout en dédicace pour faire la com de notre bouquin.
Et t'as pas le choix aujourd'hui, bien sûr.
Pour la com, on est obligé, hein, parce que sinon, c'est noyé dans toutes les séries japonaises, d'autant plus que c'est
la masse, ouais, complètement.
C'est moins viable financièrement pour l'éditeur. Donc une série française, c'est beaucoup plus à risque. Donc il faut vraiment mettre le paquet en com dessus.
C'est bien de le préciser. Tout à
donc,
fait.
On doit être partout. En plus, au fur et à mesure que je discute avec les lecteurs qui passent, donc il y en a qui découvrent sur place, mais il y en a quand même pas mal qui ont déjà vu passer plein de fois sur les réseaux, qui sont tentés, mais jamais ils sont passés à l'acte d'achat, tu vois. Et du coup, ils me disent, vous êtes en dédicace, donc je me suis dit, c'est l'occasion de tester la série, enfin, depuis le temps que je la vois. Et tu peux le prendre de deux façons. t'as le côté d'une pièce qui te dit bah c'est cool le fait que je sois venu, ça a déclenché l'achat.
Ouais.
Et l'autre côté de la pièce, c'est si j'étais pas venu, c'est-à-dire si j'avais préféré.
Tu le vendais pas.
Voilà, c'est-à-dire si j'avais préféré passer ce temps-là soit à bosser, à avancer, parce que le facteur temps, c'est vraiment le plus important, parce que plus il y a de temps d'attente, plus on a du décrochage et donc de la perte de lecteur. Donc si j'avais passé ce temps à dessiner ou juste à me reposer, hein, et ben le gars, il aurait pas acheté.
C'est ça.
Tu vois. Donc il y a un côté un peu achat contrainte. Et ben non, on doit trouver un bon équilibre là-dedans.
Alors j'ai envie de le prendre positivement, parce que c'est cool, il te voit, il me dit c'est une chance de pouvoir discuter avec l'auteur. Moi je le prends comme ça, hein. Moi je dis les auteurs c'est avant tout un moment d'échange, plutôt que de dire dessine-moi ça, parce que je trouve que bref. C'est pour ça que moi j'aime bien le rappeler ici aussi, je crois que je ne l'ai jamais dit dans mes précédents podcasts, parce que je commence un peu à lancer ce type de format-là avec des auteurs. Il faut être sympa avec les auteurs en dédicace, voilà, quand je dis ça, c'est faut être patient.
Après il n'y a pas de souci.
Globalement ça se passe bien, mais toi il n'y a pas de souci, mais c'est toujours bien de le rappeler, parce qu'on entend souvent des bails un peu sur comment sont passées certaines gestions de fil de dédicaces, etc. Et tout ça. Donc, c'est toujours bien de rester toujours dans le respect, de la bienveillance, parce que c'est avant tout une passion qui nous guide. Mais c'est vrai que je trouve que c'est bien de pouvoir échanger avec les auteurs, et il faut le voir de manière positive. Et c'est vrai que sur un point, tu vois, moi je le vois aussi à ma modeste échelle qui est le podcast, j'ai toujours entendu dire, et ça doit aussi s'appliquer pour vous, mais là dans ce cas-là, il faut aussi que vous fassiez aider un peu, des fois vous faites un peu aider aussi par la maison d'édition. Quand tu vends un produit ou quand tu mets en avant un produit, on dit toujours qu'il faut 20% de création et 80% de communication. Et souvent, t'en as plein qui font l'inverse, tu vois, qui créent pendant 80% du temps et ne communiquent que 20%. Et c'est là où je te rejoins, il faut arriver à trouver le bon équilibre, tu vois, sur se dire « Ah, ben, il faut aussi que je mette en avant mon manga, parce que si je le fais pas, tu le dis, ben finalement, tu le vends pas, parce que les gens ne savent pas que tu existes et t'as pas suffisamment le rayonnement. » Et c'est pour ça que t'es obligé de faire des salons, des choses comme ça, pour mettre en avant ton manga, et c'est comme ça que les gens te découvrent. Et petit à petit, ça prend de l'importance. C'est pas simple. Hein.
Ah, c'est dur, parce qu'on nous demande d'être partout pour faire des dédicaces, tu vois. On nous demande de cravacher parce qu'on est seul. Pour la plupart des auteurs, ils bossent tout seuls. Hein. Pour essayer de rattraper des équipes de 5 japonais déter. Et en même temps, on nous dit de prendre soin de nous et de notre santé physique et mentale, tu vois. Parce que t'as
la deadline, et il faut que t'as ta deadline à respecter, tout
voilà,
ça.
Voilà, parce que t'as pas mal d'auteurs qui se tapent des problèmes d'épaule, de tendinite, problèmes de dos, etc., problèmes de santé.
C'est important de le rappeler.
C'est chaud, quoi. En plus de ça, même juste bosser sur notre tome, seul, on peut pas trop se le permettre non plus, parce que ça suffit pas pour vivre. Et du coup, on est obligé de faire des... Ça peut être des commissions, ça peut être des ateliers rémunérés, tu vois. Donc, on est obligé de prendre une demi-journée, ouais.
Ouais, d'accord,
faire cours ou faire d'autres trucs, tu vois, pour compléter nos revenus, parce que les sous du tome, ça suffit pas, quoi. D'autant plus que pour compenser, on peut se dire, on va faire appel à des assistants. Donc, moi, c'est ce que j'essaye de faire, de gagner du temps.
Mais tu dois les payer aussi.
Y a deux contraintes. Déjà, il faut les trouver.
Oui,
et ça, c'est une énorme galère, tu vois. En fait, il n'y en a pas.
C'est une dorée rare. Ouais, c'est une dorée
autant
rare. Ouais.
Au Japon, alors je dis un peu au pif, mais vu les parcours de tous les auteurs qui étaient assistants avant d'être auteurs complets, quoi, on va dire, j'ai l'impression au Japon, tu as 10 assistants pour un auteur. En France, c'est l'inverse.
Ouais.
Tu as 10 auteurs, tu vas trouver un assistant, une personne qui peut aider. C'est chaud. Et en général, c'est sur du décor. Et quand tu trouves quelqu'un qui a le niveau pour du décor, il a le niveau pour faire tout le reste. Donc il ne veut pas être assistant, lui, non.
Il veut faire son manga aussi.
Direct. C'est ça.
Du coup,
tu te rabats un peu sur soit ceux qui ont un bon niveau, mais qui n'ont pas encore un niveau suffisant pour signer un contrat tout de suite, soit des gens qui bossent dans le jeu vidéo, qui font de la 3D, mais ils ont des tarifs aberrants, tu vois.
Ouais.
Et moi, je ne suis pas Ubisoft. Je ne veux pas payer ça. Et bon, imaginons tu le trouves. Il faut que tu puisses les payer. Et déjà que ce qu'on touche, nous, c'est ridicule. L'éditeur, il ne va pas mettre plus de sous pour l'assistant, hein, sauf si tu es Renaud Le Maire, quoi.
Ouais.
Et en gros, l'éditeur, il te donne une enveloppe. Et je lui dis,
t'as
voilà,
mon
grand.
Tu peux la comme tu veux. Ouais,
t'as ça. T'en fais ce que tu veux. Tu peux tout donner à des assistants si tu as envie. Mais nous, on accorde ça. Et après, tu te démerdes, tu te répartis ça, tu t'arranges avec tes assistants. Donc, ça rajoute une complexité en plus, quoi. Ce qui fait des auteurs avec des assistants, il y en a Genre, j'en connais quasi. Enfin, on est trois, je pense. J'en connais trois, c'est tout. Dont moi. Ouais. Donc, c'est laborieux.
Bah, d'où l'intérêt, ça renforce la discussion qu'on avait, je ne sais plus si on l'avait en off ou en on, avait commencé à aborder le sujet, de justement de, bah, de se faire payer quand tu vas dédicacer le week-end, parce que ça représente une journée de travail, hein, mine de rien.
Passes toute la journée. Et c'est une prestation. Ouais.
C'est une prestation, complètement. Prestation. Et moi, je suis complètement en faveur de ça. Et parce qu'aujourd'hui, moi je pense que c'est important parce que le festival qui te fait venir, tu peux aussi être l'auteur qui attire des gens. Ils vont vendre des bouquins qui vont être payés derrière. Enfin bref, il y a tout ce business interne au salon qui fait qu'il n'y a pas de raison que l'auteur ne prenne pas la petite com au passage aussi pour le travail qu'il aura fait toute la journée. Quoi.
Ouais, même mais des après, fois, donc soit il y a des salons qui rémunèrent, mais ça, bon, c'est un peu. Faut que tu sois invité. Et ça, ça dépend pas de toi. C'est vraiment au petit bonheur la chance. Faut que ça tombe, ça colle bien niveau timing. Et parce que sinon, le reste, tu complètes avec de la librairie. Oui. Tu te rends en librairie et les libraires, ben, ils peuvent pas te rémunérer.
Non.
Déjà, ça leur coûte. Après, ça dépend des libraires. Ils ont pas tous le même rapport aux dédicaces, tu vois. T'en as qui vont être là en mode, bah, les dédicaces, c'est pour vraiment gagner de l'argent. Donc, c'est un peu les ratus. C'est-à-dire, ils vont même pas te payer le transport, ils vont pas te payer de repas, ils vont pas te payer d'hôtel, et c'est pas un souci pour eux si tu fais 7 heures de TER dans la journée, tu vois. Ouais. Ils vont pas dépenser un rond, ils te font même pas de cadeaux ou de réduction sur les bouquins, tu vois, donc eux, c'est vraiment pour gagner des sous. Mais après, t'as des libraires, eux, ça, ils savent qu'ils sont à perte, tu vois, ça les dérange pas, mais c'est pour rajouter de la vie dans leur librairie, pour avoir le prestige d'avoir... Ben, un invité, et t'as des libraires qui sont adorables. Par exemple, quand je vais à Nice ou Perpignan, tu vois, les teams, elles sont adorables alors que elles doivent me payer deux nuits d'hôtel, trois restos, et en plus, tu vois, ils font des cadeaux sur place, tu vois. Et
c'est cool. T'es bien accueilli, quoi.
T'es grave bien accueilli, et ouais. Je pense pas vendre assez de tomes pour qu'ils soient rentables, tu vois. Donc ils sont toujours à perte, mais bon, ils le font pour parce qu'ils aiment, ils apprécient, tu vois, pour le prestige, pour créer le moment, le souvenir, etc., pour la clientèle.
Il n'y a pas à dire, c'est cool, je trouve que c'est...
Pour l'humain
je trouve qu'il y a... Moi, je préfère les dédicaces en librairie que dans un festival, tu vois. Je trouve que c'est beaucoup plus intimiste.
C'est clair, c'est moins bruyant et tout, c'est souvent plus chill. Et du coup, sachant cela, ils ne peuvent pas se permettre, les libraires, de te payer, quoi. Ouais. Je pense qu'il y en a plein qui aimeraient. Ils aimeraient pouvoir te rémunérer, mais ils sont déjà tellement short, bah ils le font pas, quoi.
Et c'est les deals que certaines librairies ou certains réseaux de bandes dessinées, je pense à des Canal BD, des choses comme ça, doivent avoir avec l'éditeur, tu vois, pour essayer de trouver le
dans la tournée d'un auteur qui me rémunère. Mais en tout cas, ça serait peut-être bien qu'ils trouvent peut-être un petit
bon
fond.
Toujours. Ouais, tu vois, c'est toujours le bon équilibre qui fait que pour arriver à, tu sais, à rendre le truc un peu plus sain. Parce qu'aujourd'hui, c'est la promotion entraîne de la vente et quand il va, en général, ça booste les ventes. Moi, je sais que la librairie part chez moi. À chaque fois qu'il y a un auteur qui vient, des fois, ça peut bider. Bon, c'est comme ça.
Ouais.
Mais c'est souvent un booster de vente sur la journée pour le libraire. Donc,
oui, c'est sûr.
Donc c'est la petite attraction, comme tu dis. On a l'auteur qui vient, c'est trop cool. Ça va être un moment d'échange et souvent, bah, c'est toujours un petit moment très sympa où ça a fait attirer le monde. Donc c'est comme ça. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose là-dessus? Parce que j'ai bien envie qu'on se lance sur ton manga quand même. On est là pour ça aussi.
Ouais,
c'est bon.
Si ce n'est que non, c'est bon. Au final, ça reviendra pour après si jamais je fais une digression, mais ce sera ou pour un mot de la fin. Mais vas-y, on peut enchaîner.
Tac. Ok. Écoute, on va parler de Space Punch. Est-ce que tu veux est-ce que je te laisse aller résumer, nous dire de quoi ça parle? Parce que je me dis...
Non, tu peux, je te laisse, je t'en prie. Voilà. C'est toi le journaliste. Et moi, j'ai passé mon week-end à le pitcher, donc voilà, je prends des vacances.
Je vais essayer de faire un pitch sans trop en dévoiler, parce qu'en fait, on a quand même le tome 1 où vraiment le sel de ton manga arrive à la toute fin. Vraiment, enfin, c'est vraiment dans les derniers chapitres qu'on a ce rebondissement. Donc j'ai envie de faire un peu le parti pris, on va dire, de pas trop en dire, et puis on va en parler, parce que surtout c'est de donner envie aux gens, à part un petit peu toutes tes références, tout ce qu'on fait le sel de ton manga. Alors je sais pas si j'ai bien prononcé, mais donc ça se place à Mirai City, si on le prononce comme ça, où on a cette ville qui est gangrénée par la mafia. On a en fait deux clans de mafia qui sont opposés les uns aux autres. Et au milieu de tout ça, on a deux frangins qui sont radicalement différents l'un de l'autre. On a un peu le loser d'un côté qui vit de petits boulots et qui justement essaie de survivre tant bien que mal et qui est beaucoup plus jeune. Et on a le grand frère qui lui est dans la police et qui est un petit peu la resta de la police, quoi. On va dire au début, tu nous le présentes en tout cas comme quelqu'un de qui a ce qu'il faut là où il faut pour devenir un grand de la police. Et malgré eux, ils vont se retrouver un petit peu embarqués en fait dans cette lutte entre ces guerres de clans, ces guerres de mafieux, avec un petit effet, on va dire, fantastique. Je sais pas si on doit en parler. Est-ce que tu le dis, toi? On peut.
Oui, je le dis. Bon, ouais.
Ils vont faire la découverte d'artefacts, on va dire, d'objets un peu spéciaux, qui vont leur conférer une, on va dire, des capacités un peu spéciales. Un va tirer une force vraiment ultra indécente, on va dire. C'est d'où d'ailleurs, si tu dis pas de bêtises, est tiré le titre du manga. Voilà, vous comprendrez pourquoi le manga s'appelle Space Punch. Donc il y en a un qui va découvrir une mitaine qui vont lui donner une force un peu particulière, et l'autre va avoir plutôt une capacité d'analyse, d'anticipation sous la forme d'une casquette qui va lui donner, voilà, pouvoir mieux gérer l'environnement et un petit peu ses adversaires. Parce qu'on va se le dire dès le départ, ils n'ont pas le même passif en termes de physique, parce qu'il y en a un, c'est un peu le gringalet d'un côté, et puis l'autre, il est déjà, en termes de physique, il est déjà quand même sacrément bien avantagé. Il fait des arts martiaux, tout ça, et voilà. Et donc on va suivre ces deux frères avec un passé un peu obscur, on ne nous en dit pas trop, mais voilà. Est-ce que j'ai bien résumé? Voilà, j'espère que je n'ai pas trop dit.
Bon, nickel. Ça,
voilà. Mais en tout cas, ouais, je te le dis ici, parce que encore une fois, c'est pas... moi, j'ai tendance, je le dis aux auditeurs, ils le savent, je ne traite que des mangas qui me plaisent, tu vois, vraiment. J'aime pas faire l'hypocrite ou comme ça, et honnêtement, bon, en face de moi, donc je te le dis.
Du coup, ils vont être vexés, ceux qui ne sont pas invités.
Non, bah après, il faut qu'ils le prennent personnellement. Je ne peux pas avoir j'ai pas le temps de tout lire et d'inviter tout le monde.
On va dire ça. Il y a ceux que tu as aimés, il y a ceux que tu n'as pas encore lus. Voilà.
Voilà, c'est ça. La réponse vient corporate. Mais non, très sincèrement, moi, j'ai pris un pied monstrueux à lire ton manga. Je te le dis ici parce que franchement, j'étais assez bluffé de ta manière de dessiner. En fait, je ne m'attendais pas à ça. Franchement, on me dit c'est un auteur français qui fait ça, je veux dire ouais, bah purée, franchement, t'as pas à pâlir, voilà, c'est l'instant, je te graisse un peu la patte. Mais et puis l'histoire est cool, et c'est là où j'en viens un peu de t'emmener pour démarrer là-dessus, parce que je pense que c'est ce qui va le donner le plus envie aux gens. C'est quoi tes inspi, quoi, pour dessiner ça? Parce que moi, je l'en vois quelques-unes. Il y en a une très très grosse, on va tout de suite l'évacuer.
Ouais.
On est d'accord que le nom de famille des personnages, il est pas là par hasard.
En vrai, si, il est un peu là par hasard, mais c'est un hasard qui est bien fait.
Ah oui, voilà.
c'est une sacrée coïncidence, on va dire. Alors, le nom des deux frères, ils s'appellent Joe et Zach Kazuma.
Eh oui. Il y a une grande famille.
Et Kazuma, voilà, Kazuma, ça ressemble à Kazuya et à Kazama, contractés ensemble. Alors, c'est ces noms, pour ceux à qui ça dit trop rien, c'est les noms de famille des deux protagonistes principaux de Tekken.
Oui.
Ouais. C'est ça. Mais en fait, quand j'ai dit Kazuma, en fait, je pensais plutôt à King Kazuma de Summer Wars, du film.
Ah, ok. Toi, c'est un
je
truc qui me
plutôt
parle
à ça, tu vois.
Ah ouais. Mais donc, moi, j'ai pas eu cette ref-là. Ok.
Moi, c'était à ça que je pensais.
Ok.
Tu vois, quand je l'ai fait. Mais ouais, il se trouve que c'est la contraction parfaite de Kazuya et Kazama, pour Jin Kazama et Kazuya Mishima.
Et il y a un peu de, on va dire, il y a quand même un peu de vibe, un peu de vibe Tekken quand même dans la manière de se battre.
Ouais, c'était, en tout cas au début quand j'ai sorti le tome 1, c'était pas une, en fait Tekken j'y pensais pas quand j'ai fait mon dossier, mes car design et tout. C'est que quand le tome 1 est sorti qu'on en a parlé.
On me dit, ah, tu as joué étant plus jeune. On est d'accord que c'est.
En fait j'ai juste joué à Tekken 3 quand j'étais petit. Et après, je crois que j'avais un peu joué à celui sur PSP, c'était
le Tag
Resurrection.
Ah non, pardon. Ouais, peut-être, oui.
Resurrection. Mais à part ça, j'ai pas joué vraiment à Tekken. Et encore, Tekken 3, c'est pas moi qui l'avais, c'était genre jouer chez une cousine.
D'accord. c'était dans ton inconscient alors.
Ouais, dans mon inconscient, on va dire ça. Parce que même les coupes de cheveux et les caractères, ça, et les codes couleurs, ça colle vachement, donc c'est assez étrange.
Eh oui.
Donc, il me reste un contrat, mais qui colle bien. Mais du coup, j'en ai joué et j'ai fait des refs à Tekken ouais, par la suite. Notamment dans le tome 2, à un moment, il y a un face-à-face entre deux persos.
Ah, ah bah oui, 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 je vois très très voilà. Bien laquelle c'est. Les auditeurs qui ont lu le tome 2,
incroyable. Écran de combat, quoi. Donc il y a un perso à gauche et un perso à droite, ils se regardent. Et ouais, bah, la pose de Zack, c'est la pose de Kazuya, quoi. Ouais. Donc je fais des postures de perso de Tekken.
C'est une double page pour les auditeurs, hein, qui, qui est à peu près... qui est à peu près, on va dire, la bonne moitié bien entamée du manga. Et c'est franchement, c'est double page, c'est ce qu'on attend d'une double page, quoi, en fait.
Ouais, c'est ça, que ça claque.
Mais ouais, Tekken, et après, bon, on sent aussi que t'aimes bien la boxe, et que t'aimes bien une certaine saga. Et je sais pas pourquoi, je connais ton préféré. Tu m'arrêtes si je me trompe. Hein. Oui. Est-ce que ton préféré, c'est pas Rocky IV par hasard?
Ah, je pensais que tu allais me parler de Hajime no Ippo pour le coup.
Alors, oui, il y a du Ippo. Oui, non, mais forcément, il y a du Ippo parce que tu parles de Gazelle Punch. À un moment donné, ça en y serait venir. Là, j'étais plutôt sur les refs vraiment grand public, on va dire. Tu vois, vraiment, il y a le poster de Rocky. Et quand j'ai vu la différence de gabarit, si tu veux, entre un certain personnage et un autre, et le côté de la froideur, le côté je m'entraîne à la dure, mais en me servant de la nature. Et puis l'autre, d'un côté, bah, c'est plutôt un entraînement chimique à base de certains compléments qui l'aident à développer sa force. Je dis, putain, ça me fait penser au training montage de Rocky IV, quoi. Voilà, ça m'a sauté au visage.
C'est contre le russe, non?
Ouais, contre Drago.
Ouais, Grand Drago, c'est ça, ouais. Voilà. Alors, je vais pas casser ton délire, mais Rocky, j'ai vu que le premier.
Ah, vas-y.
Mais ça arrive quelques fois, genre, c'était arrivé sur une autre émission, sur un plateau, où il y a une chroniqueuse qui, elle enchaîne un peu comme toi pour parler des références, et elle me dit, on sent que t'es vachement inspiré par tel film, machin, etc. Et moi, je suis un peu gêné parce que c'est que des films que j'ai pas vus. Tu vois,
je suis un vieux, hein, donc c'est ma génération, donc, c'est pour ça. Ouais.
Non, je suis pas un grand cinéphile. Il y a plein de vieux films que j'ai pas vus et bon, je rattrape un peu mon retard depuis quelques années, mais à un petit rythme. Hein. Je regarde pas chaque semaine des films non plus. J'ai pas trop le temps.
Bien sûr.
Je regarde un petit peu quand j'ai l'occasion et quand c'est sur les sites de streaming sur lesquels j'ai un abonnement. Mais non, Rocky, j'ai vu que le premier. Faudrait que je les regarde, tu vois. Mais faudrait que je regarde et je ferais peut-être des parallèles, ouais.
Tu m'as induit en erreur parce que, étant donné que tu as mis un poster de Rocky dans la chambre.
Oui, aussi, j'ai mis un poster de Rocky.
Ouais,
parce que c'est pour la partie boxe. Après, tu sais, Rocky, c'est archi connu, mais j'ai pas vu tous les films.
En fait, il fait une ref à Rocky 4, tu vois. Je me dis, parce que je voyais cette dualité de.
Et c'était c'était l'affiche de Rocky 4 aussi. Attends, je vais
vérifier. Je crois pas. Non, je crois que tu avais mis le. T'as dû mettre
celle du 1.
Oui, t'as mis le 1. C'est
un ref à Rocky 1, ouais. Je vais retrouver ma petite scène là.
Qui sert d'ailleurs à cacher la misère, puisqu'en fait, dans l'énervement, notre personnage principal va taper dans le mur. Mais oui, bon, vu que tu en as parlé, j'allais y venir, hein, justement, mais tu nous as fait une déclaration d'amour à Hajime no Ippo dans le tome 3. Ouais. On peut dire que c'est vraiment. On sent la vibe Morikawa, on sent tout l'amour que tu as pour ce manga. Et je suis un grand fan d'Hajime no Ippo. Donc, quand j'ai vu la gestion du dynamisme que tu avais dans ce tome 3 et dans la manière dont le personnage bouge, disparaît, enfin, t'arrives à jouer avec les angles, c'est une scène qui est franchement assez ma boule. Hein. Franchement, j'invite les auditeurs vraiment à aller jusqu'au tome 3 parce que c'est. Comme je t'ai mis en privé, je t'ai dit là, tu fais plaisir, quoi.
Ah, c'est ça, j'ai régalé les lecteurs.
Et tu vois, tu arrives à t'en affranchir pour autant. C'est pas du. Tu vois, c'est vraiment. Tu fais un hommage appuyé à Hajime no Ippo, mais tu as ton truc à toi, quoi. Tu vois, c'est. Mm-hmm. Il y a toute cette toile de fond qui se met en place avec le. On sent un petit peu petit à petit les deux organisations se dévoiler, en fait. Et tu nous places un match de boxe en plein milieu de l'histoire, en pur fan service, quoi.
Exactement, c'est mon pur fan service. Genre, je suis fan de Ippo, j'ai envie de mettre de la boxe dans mon.
Mais t'as raison.
Manga. Et
c'est
en plus, dans Ippo, souvent, tu sais, les gros matchs, ils durent Ah bah oui. Genre 2-3 tomes, quoi.
Mais bien sûr.
Donc, je suis là, bah putain, il faut que mes rêves, c'est des combats sur 2-3 tomes et j'ai qu'un seul tome. Bon, vas-y, je vais faire un gros tome avec le début et la fin et je vais me régaler, quoi. Et ça a régalé tout le monde et j'ai plein de lecteurs qui à la base n'étaient pas très boxe, tu vois, mais ils ont kiffé le combat.
Bah oui.
Parce que la narration, c'est fluide, ils se sentaient impliqués, la lecture était intense, ça montait, ça descend, etc. Je les ai malmenés un peu et ils ont kiffé.
Ce que j'aime beaucoup, et encore une fois, là, tu m'arrêtes, c'est quand tu parles justement de ta narration. Bon, il y en a certains, on a compris, mais tu ne nous fais pas des personnages trop manichéens. Tu vois, c'est des personnages qui... Il y a toujours une petite sous-couche où tu te dis, non, est-ce qu'il est vraiment complètement méchant ? Il est peut-être pas dans le bon business model, ou pas dans le bon camp, mais t'arrives, ce personnage, ce grand boxeur là qu'affronte notre héros là, bah tu vois, t'arrives à nous par petites touches à nous dire, est-ce que voilà, est-ce que c'est si blanc ou noir que ça ? Non, peut-être pas tant que ça.
Les persos complètement méchants, bah ça peut être sympa de temps en temps, mais.
T'en auras un ou deux, je pense, quand même, qui sont irrécupérables, à mon avis, en avançant dans l'histoire.
Mais non, j'aime bien mettre un peu de nuance pour que ça crée un peu aussi de culpabilité. Et final, on ne se rend pas compte qui fait le plus de dégâts, c'est qui les ordures dans l'histoire, tu vois.
On sent bien le côté gangrène, et ça, on le sent dès le premier chapitre, où quand Zach... cherche à arrêter un personnage et qu'on voit qu'il a un mystérieux tatouage en fait qui fait rappel à quelque chose. Encore une fois, j'ai pas trop en dévoilé parce que le but c'est pas de spoiler l'histoire ici, c'est de vous laisser découvrir et kiffer. Hop là, il a un stop et on lui dit non mec, tu peux pas toucher à ce mec là, c'est pas possible quoi. Ouais. Et puis voilà, puis après on creuse, on avance dans l'histoire et on comprend pourquoi. Et non, ça c'est vraiment chouette. Alors il y a un personnage, il faut que tu m'expliques, qui est dans le clan des Daruma.
Ouais.
Qui est le conducteur en fait de la voiture.
Ah ouais, James.
Tu l'as dessiné d'une manière, et je voulais savoir s'il y avait un truc en particulier avec ce personnage, parce qu'il détonne en fait avec le reste. Alors tu sens qu'il cache des trucs, voilà, qu'il n'est pas complètement très clair, mais il a une tête de gentillet et dessiné de manière très presque à la limite du basique par rapport aux autres. Mmh. Tu vois, il y a quelques traits de dessin pour faire son visage.
Ouais.
Si je voulais en savoir un peu plus, quoi, sans me donner vraiment le truc, mais qu'est-ce qui t'a inspiré à le dessiner comme ça en fait ?
C'est juste que quand je fais une bande de perso pour faire un gang, tu vois, il faut des archétypes et des caractères un peu différents. Donc tu vois, t'as un spectre de caractères possibles, donc tu vas viser large. Et dans l'équipe, en fait, il est venu assez instinctivement. Il y avait ce perso parce que chacun doit sortir un peu du lot. Et lui, sa façon, c'était avec son expression, parce que j'ai fait assez de persos avec des sourcils froncés, des regards très sérieux. Et lui, je me suis dit, tiens, je vais faire une grosse tête de Mickey. Voilà, avec toujours la même tête, toujours la même expression. Donc, ça va m'apaiser un peu au dessin. Moi, ça me facilite la vie parce que c'est un petit bonbon. Je suis content quand il est là parce que c'est un petit moment de légèreté. Il a tout le temps la même tête, donc c'est facile. Je me prends pas le chou pour deviner quelle expression lui faire. Voilà, toujours la même tête, et justement ça rajoute un côté intrigant.
Tu le sens en fait quand je le découvre pour la première fois. Donc on le voit dans le tome 2, hein, si je dis pas de bêtises.
Non, on le voit à la fin du 1.
On le voit à la fin du 1, oui, c'est vrai, pardon.
Ouais, ouais.
Et quand tu le vois, tu dis « Ah ouais, mais je ne peux pas retirer tes yeux de lui. » Tu dis « Mais c'est quoi ce personnage ?» C'était très perturbant, surtout que les gus avec elles, ils sont... c'est pareil dans le duo qui l'accompagne. Tu m'as bien attrapé sur un des deux. Sur le physique d'un des deux personnages. Ouais. Voilà, j'en dirai pas plus parce que je veux laisser l'effet de surprise aux auditeurs en lisant le tome. C'est pareil, c'est très perturbant parce qu'à aucun moment tu nous montres quoi que ce soit, et c'est dans une scène en particulier, et tu te dis ah ok, d'accord, tu m'as attrapé sur peut-être une histoire de dimension, on va dire, pour rester un peu vague.
Ok, ça marche.
Si tu vois ce que je veux dire.
Ouais, sur Ben.
Oui, celui qui a les cheveux un peu touffus. C'est
un perso qui est tout petit.
Ouais, voilà, on peut le dire, voilà, il est tout petit. je voulais pas le dévoiler. Comment ?
Mais ouais, il a un certain caractère, une certaine énergie aussi différente.
Ouais, il aime pas trop qu'on le charrie sur sa taille. Il fait penser à un certain autre personnage de la pop culture de manga. Je sais pas si c'est un lien avec.
Voilà, on l'a. Pas spécialement, mais c'est un archétype qu'on retrouve souvent, je pense.
Mais en tout cas, ouais, c'est la question que je me pose, c'est est-ce que tu sais déjà, alors est-ce que tu as déjà la fin en tête? Est-ce que tu sais où tu veux aller? Et surtout, là, actuellement, on est à 4 tomes. Tu penses finir l'histoire? Déjà, on te laisse combien de tomes pour la terminer? Et toi, t'aimerais la finir en combien de tomes? Enfin, voilà, est-ce que t'as le droit de parler du deal sur le nombre de tomes qui sont prévus pour boucler l'histoire ou...
Actuellement, oui, j'ai ma fin. En fait, ma fin, je l'ai depuis le tout début. Puisque d'accord. Quand j'ai présenté mon dossier, qu'il y a eu les négociations et tout, les échanges, je donnais la fin déjà. Parce que la fin, c'est ce qui te permet de boucler ton œuvre et de donner du sens à tout le chemin, tout ce qu'il y avait avant, tu vois. C'est un peu comme un cercle, tu vois. C'est-à-dire, tu as ton point de départ, tu as ton histoire qui commence et qui commence à faire le tour, et ta fin, en fait, elle doit être raccord avec ton début, tu vois, au même point. Faut pas qu'elle soit en haut ou à une autre trajectoire, quoi.
Ok.
Parce que sinon, tu dis, y a aucun rapport entre le point de départ, le chemin et l'arrivée, quoi. Et justement, c'est l'arrivée qui donne du sens à l'ensemble, qui fait que c'est un tout uni. Et qui donne du sens aussi à ton thème qui t'est abordé. Donc oui, c'est important de l'avoir parce que c'est ce qui va te donner ta direction. Si t'as pas de direction, c'est un peu compliqué, quoi. T'es un peu dans le brouillard, et tu sais pas quelle tête va avoir ton œuvre quand elle sera terminée, quoi.
Ouais.
Et concernant le nombre de tomes, alors, il y a ce que j'aimerais faire, il y a ce qui se passe et il y a ce que l'éditeur me permet de faire.
Bon, déjà, et toi, qu'est-ce que tu aimerais faire déjà? Si on peut commencer par ça.
Alors, cette question, ma réponse, elle change à chaque tome. Le chiffre a tendance à monter à chaque fois.
Ça me surprend pas.
Ouais, voilà, mais... parce qu'à chaque fois que je prépare un scénario, en fait, ça rentre pas dans un tome, tu vois. Et du coup, je dois découper mon scénario en plusieurs tomes.
Est-ce que c'est le responsable éditorial ou la responsable éditoriale qui te suit, qui te canalise à ce niveau-là ou t'es assez libre de faire ce que tu veux?
C'est le nombre de pages qui me canalise.
D'accord.
C'est plutôt ça, quoi.
Le boulot qui t'attend derrière.
Voilà. C'est,
ok.
C'est pour ça que j'ai des tomes à 240 parce que j'arrive pas à tout rentrer, tu vois. Par exemple, ce que j'ai teasé comme étant le tome 1 dans le dossier, au final, ça m'a fait deux tomes, tome 1 et 2. Donc quand je prépare un tome, en fait, ça me prend deux tomes à le faire. Parce que en fait, tu ne peux pas te rendre compte de la place que va prendre ton scénar tant que tu n'as pas tout storyboardé.
Ouais.
Et pareil, pour le 4, là, j'ai prévu un script, une début, une fin. Je me suis dit, ok, ça, c'est un bon tome 4, ça, c'est bien. Au final, j'ai pu rentrer que la moitié pour faire le tome 4, tu vois. Okay. C'est-à-dire, j'ai fait la moitié, j'étais à 200 pages.
Ouais.
J'ai dit, merde. Ça va pas le faire. Je coupe à 200, je coupe mon gâteau comme ça, et l'autre moitié, ça sera le tome 5, et ça rentre toujours pas.
Ah oui, ok.
Voilà. Donc, au final, ce que j'ai prévu à la base comme étant le tome 4, ça va faire tome 4, 5 et début du 6. Voilà, c'est dur de me projeter, c'est pour ça qu'à chaque tome, quand on me pose la question, je rallonge la durée, tu vois. C'est-à-dire, quand j'étais sur le tome 1, je disais, peut-être 7 tomes, ça serait bien. Quand j'étais au tome 2 et 3, je disais peut-être 8 tomes. Et maintenant, je suis plutôt sur les 10-12.
C'est comme ça que je le ressens là où j'en suis.
Tu sais, tu rajoutes des persos secondaires, t'as envie de développer tes personnages,
de la place,
de mettre des mini-actes, des mini-arcs.
Mais t'as carrément de la place. Enfin, je veux dire...
Surtout, t'as vu ma narration.
Mais t'aimerais en savoir plus sur la copine du personnage du deuxième frère qui l'accompagne à la boxe et compagnie. Elle est un peu là, mais elle est pas trop là. Mais on sent que tu regardes un peu sous le pied aussi. Tu te dis, de toute façon, on va peut-être apprendre des trucs sur elle, tout ça. Et ça, c'est franchement. Et alors, du coup, pour l'instant, les éditeurs te suivent. Est-ce que quand tu leur annonces 10-12 tomes, est-ce que ça leur fait peur? Est-ce que c'est.
Oui, ça leur fait un peu. Comment dire? Un peu peur. Il serre un petit peu, tu vois. Mais moi aussi. Alors, je sais que l'éditeur, quand le tome 1 est sorti, ou quand je préparais la série, on s'accordait pour 5 tomes au moins, tu vois.
Okay.
Peu importe les ventes. Mais si ça s'arrêtait en 5, il me l'aurait dit au tome 3. Alors, le tome 3 a bien démarré. Il y a eu des bons retours.
C'est ce que j'allais te demander. Pour l'instant, les retours sont plutôt positifs.
Pour le coup, j'ai que des retours positifs. Et même quand j'ai des retours avec des critiques, tu vois, elles sont constructives. Et elles sont toujours enrobées dans un tas de compliments, on va dire, tu vois.
Ouais. Ça, c'est cool.
Donc, ce qui fait que j'ai... Ouais, je peux toujours considérer que j'ai que des bons retours.
Ok.
Que, voilà, il y a deux types de personnes. Je peux dire, pas très humblement, mais il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui ont kiffé Space Punch, il y a ceux qui l'ont pas lu.
Ouais, mais c'est faut toujours...
Voilà, phase, voilà. Ouais. Bah après, bon, non, en vrai, j'ai de la chance. J'ai que des bons retours, mais en même temps, ceux qui aiment pas, en vrai, bah, ils vont pas t'envoyer un message pour dire « Bonjour, j'ai pas aimé. » Bonne journée. Non, voilà, les gens ils le gardent pour eux et puis c'est tout, hein, ils passent à autre chose.
Et puis ils achètent pas. Hein, c'est... Alors, la plupart du temps, c'est vrai que quand les gens n'aiment pas, ils te font pas de retour. Après, on est dans une ère où t'as certains réseaux sociaux qui sont un peu propices, un peu à la haine. Mais est-ce que votre génération de mangaka, je vois assez peu de retours dans ce sens-là. Il y a peut-être plus des fois des gens énervés parce qu'ils sont à fond derrière un gros classique du manga, ils aiment pas l'arc qui a été fait, donc il faut en parler, etc.
En français, non. De toute façon, il y a trop peu de tomes et notre noyau dur, il est très cool.
C'est ça.
Il
n'y
a pas de
souci. C'est ce que je pense.
Mais pour revenir du coup sur le nombre de tomes, l'éditeur. Alors, j'en ferai une annonce dans quelques. Dans peut-être un mois, le temps que je finisse une illustration.
Ok.
Mais oui, là, comme ça part, je ne finis pas en 5. Hein.
Finis pas en 5. On croise les doigts.
Donc ça dépasse un peu, mais ils me garantissent pas pour l'instant d'aller jusqu'à 10-12. C'est-à-dire que je suis dans une zone grise où...
Ça dépend des ventes, c'est ça.
Ça dépend des ventes, voilà. Et il faut que les lecteurs jouent le jeu, tu vois. Parce que ça, c'est un gros souci. Et les lecteurs s'en rendent pas compte, c'est que, en fait, le nombre de tomes d'une série ne dépend pas complètement de nous. Hein. Un petit peu en partie, mais ça dépend surtout des ventes dans un instant T, au début. Ouais. C'est-à-dire que, en gros, et les ventes, ce qui va compter le plus, qui va faire conditionner la vie un peu d'un album, ça va être les ventes en première semaine.
Exactement, c'est bien que tu le précises, c'est bien que tu en parles, parce que c'est... Alors, malheureusement, je suis désolé, je m'excuse ici, je n'ai pas contribué au démarrage de tes séries. Je me rattraperai sur le tome 5, mais non, ce que je veux dire, c'est important que tu soulignes ce point-là, parce que ce n'est pas les ventes. Alors, souvent, quand on laisse une série le temps de s'installer, ils regardent au global, mais ce qu'ils regardent surtout, et c'est important que tu le dises, c'est surtout les premiers jours, quoi, enfin les premières semaines quoi, de vente, parce que le marché est tellement inondé, en fait, que si ça ne marche pas dès le début, ben, ils partent du principe qu'il y a peu de chances que ça marche après.
C'est ça. Là, c'est vrai, c'est vraiment un sujet intéressant et important. Et les lecteurs ne se rendent pas compte, mais même certains auteurs. Y a plein d'auteurs, tant qu'ils ne sont pas en train de stresser pour leurs chiffres et ils se posent la question sur la suite de la série, ils ne se posent pas la question. Hein, tu vois. Donc, pour que les auteurs sachent, alors, faut pas qu'ils partent du principe voilà, qu'il y aura tous les tomes, qu'il y aura autant de tomes que souhaite l'auteur. Non, du tout. Alors déjà, sur les mangas en librairie, donc il y a deux choses. Il y a donc les mangas achetés par licence, donc c'est 99 et plus pour cent de ce qu'on a sur le marché, et les mangas de créa, donc nos mangas français par exemple.
Alors les mangas de licence, juste pour les auditeurs qu'on rappelle, c'est ceux que vous connaissez, c'est les mangas qui arrivent du Japon, dont on a acheté la licence au Japon, donc les One Piece, Naruto, voilà. Et après la création pure, la création, c'est, il y a quelques exceptions, on va se le dire, hein, en auteur japonais, on a eu le cas Léviathan, qui pour le coup est une création, pure création, puisque c'est le label Kiyun, c'est la maison d'édition Kiyun qui a embauché un japonais pour être en première diffusion en française. Ouais. Mais voilà, ça reste une exception dans l'océan qui est le monde du manga en librairie. Vas-y, je te laisse continuer.
Du coup, dans le premier cas, dans les mangas de licence, en fait, l'éditeur donc français qui achète la licence, il va publier tous les tomes de la série, ou du moins de la première saison, si c'est une série fleuve. Donc en fait, peu importe les ventes, même si ça floppe, même si l'éditeur français perd de la thune, par exemple, ça peut être le cas sur Hajime no Ippo, malheureusement, c'est un peu chaud, quoi. Il y a tellement de tomes. Et,
compliqué, très compliqué, ouais.
C'est très compliqué, quoi. Donc même si c'est un peu bourbier, donc même s'il perd de l'argent, il doit tous les sortir. Il s'est engagé parce que si l'éditeur décide de ne pas les sortir en manque de vente, en fait, il est grillé. Il est grillé auprès de l'ayant droit japonais et il ne lui accordera plus jamais aucun titre, quoi. Donc, à la limite, l'éditeur français se dit « je pourrais être rentable plus tard ». C'est pas bien grave, quoi.
Ou espérer qu'il y ait un animé qui sort pour rebooster les ventes.
Ah, ça boostera. Il y a tellement de séries en France, qui au début ça bidait, mais il n'y avait rien, et après, dès qu'il y a eu l'animé, ça a explosé, tu vois.
Demon Slayer est le bon exemple. tu vois.
Voilà, Demon Slayer, exactement. Tokyo Revenger, pareil.
Exactement.
C'est-à-dire Tokyo Revenger et Demon Slayer, si c'était des créas françaises, bah il y aurait eu trois tomes.
Trois tomes, ouais.
Voilà,
c'est ça.
Trois
ouais.
tomes, ça se serait arrêté. Il n'y aurait jamais eu la suite. Voir.
Ouais, c'est ça.
Voilà, exactement. parce que là, quand c'est une licence, justement, donc deuxième cas de figure, donc c'est l'éditeur qui publie le titre en France, ben, qui détient la licence et c'est lui qui décide de la poursuite ou non de la série.
Création. T'as dit si c'est une licence. Mais non, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Voilà, ouais, de création, ouais. Tout à fait.
C'est ça. Donc c'est lui qui décide. Voilà, donc Space Punch dans mon cas, ou n'importe quel manga de mes collègues, quoi. Et lui, il va pas se dire, je vais sortir autant de tomes que l'auteur il veut, même si ça bide et qu'on perd de l'argent. Non, lui, il va pas. Si, il a aucune contrainte, parce que moi, je suis pas la Shueisha, je vais pas mettre la pression, moi, je suis juste l'auteur, tu vois. L'éditeur qui décide, en fait. Il va juste s'arranger, enfin, s'accorder pour un minimum de tomes. Mais pour la suite, pas plus que ça. Quoi.
C'est la dure vie du business où malheureusement les éditeurs ont un peu droit de vie ou de mort sur des séries et c'est comme ça. Et alors, on est un peu habitué parce que ça marche déjà comme ça dans le monde de la bande dessinée, mais les mangaka français n'échapperont pas à cette règle. Hein. C'est comme ça. Il faut l'accepter en commençant à jouer avec ce monde-là. Hein.
Ouais, vu que c'est leur licence, quoi. Donc en gros, souvent, nous les auteurs, on va être là, on va vouloir faire des séries en. Des séries, tu sais, un peu fleuve, parce qu'on a envie de faire des grands projets, même. Vu que ça prend tellement de temps, tu te dis, autant faire un gros projet, tu vois. Tu sais, genre, ta licence phare, tu vois. Donc, tu te dis, allez, va pour 10-15 tomes, c'est bien, ça. Ou 20 tomes, allez.
Oui.
Mais l'éditeur, il va dire, t'es mignon, mais on part sur 3, déjà. Et en fonction, après, on book, tu vois. Sachant que, en fait, faut que tu saches assez vite... Si ta série se finit, parce qu'il faut que tu amorces ta fin.
Tu dois te mettre dans un schéma de scénario dans ta tête, de te faire des, entre guillemets, que même si ça se boucle en 3 tomes, de se dire que tu as réussi à boucler un truc quand même en 3 tomes et que tu puisses faire une fin, une fin à peu près qui peut satisfaire un peu les lecteurs. Quoi.
C'est ça. Donc on va se dire, l'éditeur, il te laisse 2 tomes de marge.
Ouais.
C'est-à-dire que.
C'est pas beaucoup.
Tu pars sur 3 tomes. En fait, le destin, il va se jouer sur le tome 1, tu vois. Et si les gens achètent. Si les chiffres, du coup. D'un tome qui sort sont faibles dès le début, et ben ils se disent oula, il y a une grosse perte de lecteurs, ben tu sais quoi, on arrête là. Et du coup, l'auteur il va être obligé d'amorcer sa fin hyper vite, et du coup, ça va faire une œuvre qui s'en mêle les pinceaux, pas terrible.
Malheureusement, je vais te dire un truc, dans les premières ères des mangas français que j'ai bien connus, il y a beaucoup de mangas qui terminent en autre boudin, voire même qui n'ont pas du tout de fin.
C'est ça.
C'est frustrant, hein. C'est très très frustrant.
Parce que ouais, en plus, donc l'éditeur il va pas attendre plein de tomes, beaucoup de tomes pour se dire, s'il perd de l'argent, s'il est un peu réticent, il coupe l'herbe sous le pied et c'est fini quoi. Mais après, il y a quand même une petite marge de manœuvre, voilà, il va quand même laisser, c'est un peu moins 3 tomes maintenant, c'est plutôt 4-5 tomes, et il va te laisser 2 tomes de marge.
Ce que je te disais, c'est que je pense que malgré tout, ils ont quand même aussi appris de tout ce qui est passé avant. Tu vois, des plâtres qui ont été essuyés ou des choses où... Moi, j'ai plein de tomes français qui... J'ai qu'un tome, tu vois, et j'aurai jamais la fin.
C'est chaud. Je pense qu'ils ont appris un peu, donc ils laissent plus de marge. Mais c'est pas non plus open bar, quoi.
Ah non, complètement. Tu l'as bien précisé, il y a une histoire de business model qui fait qu'aujourd'hui, ça coûte moins cher à une maison d'édition d'acheter une licence. Plutôt que de financer un mangaka français, tu vois ce que je veux dire? Donc ça, faut bien le rappeler. Et donc, ils prennent plus de risques à éditer un mangaka français que d'acheter une licence.
Pour que les gens sachent, une licence à acheter, ça peut coûter entre 30 000, 40 000 euros pour les gros blockbusters, genre pour un My Hero Academia ou un truc comme ça, à 500 euros, tu vois, pour importer une licence, tu vois. Et les auteurs, c'est au moins le tome, au moins 15 000 euros. Donc 15 000 euros, t'es quand même vachement dans le haut du panier. Hein. Donc pour être rentable, en tant qu'auteur français, que tu vends plus que peut-être 75% des mangas du marché. C'est un truc de ouf. Alors que t'as pas du tout le rayonnement, t'as pas d'animé, t'as rien. Enfin, c'est chaud quoi. Et donc du coup, comme ils dépensent pas pareil, faut qu'ils vendent encore plus. Et donc les ventes, c'est important, notamment première semaine, c'est là que tout se joue. Pourquoi première semaine? Parce que. En fait, la première semaine, c'est la semaine où le titre va être mis en avant, c'est-à-dire jaquette apparente en librairie.
C'est là où tu as le plus de com, le plus de promos sur les réseaux. C'est là où tout est poussé à fond. Ouais.
Il est mis en avant juste une semaine, parce que la semaine d'après, il y a une nouvelle vague de nouveautés. Et au bout d'une semaine, ton tome, ben, il va se limiter à juste un dos dans une étagère parmi tant d'autres, tu vois. Et donc oui. Là, bon courage pour sortir du lot. T'as intérêt à avoir un joli dos.
Ils sont chouettes tes dos, je tiens à te le dire.
Ah, c'est vrai. Bon, après, ils sont assez sobres. Hein. C'est,
non, mais le fait déjà d'avoir les... d'avoir les têtes des personnages, ton logo, il est chouette aussi, tu vois. Ouais. C'est... Ça fait dans, le... dans une bibliothèque, ça ressort un peu, quoi, tu vois. C'est... Ouais.
Et je me dis que faire des gros tomes aussi, ça permet de prendre plus de place. Donc, c'est pas plus oui. mal.
Non, ils tiennent bien en main. Ça, par contre, pour ceux qui ont des grandes mains, franchement, Space Punch, ça tient bien en main. Donc, ça, pour le coup, c'est un bon choix de format.
Donc, si tout le monde achète première semaine, bah, déjà, le libraire va faire du réassort, donc il va recommander. Et ça va rester plus longtemps en nouveauté, plus longtemps devant, donc ce sera plus longtemps exposé. Et en fait, ça a un effet boule de neige, où ça a plus de visibilité, etc. Donc voilà. Alors que si vous l'achetez après, genre longtemps après, quelques mois plus tard, ou sur des sites en ligne, bah, les tomes qui seront là, bah, il va en mettre un en rayon, c'est-à-dire dans une étagère, donc il n'y aura que le dos, et les tomes qui va lui rester, bah, il va les renvoyer, peut-être. L'éditeur, ensuite, quand il les récupère, bah, il peut les envoyer au rebut, enfin, plus au rebut, je veux dire, les pilonner, parce que ça coûte moins cher de détruire des bouquins neufs et intacts.
Que les garder en stock.
Garder en stock, c'est aberrant. Et en plus, bah, les tomes détruits, ça compte comme des ventes négatives pour moi. Donc, c'est limite, je dois revendre un tome pour annuler un pilon, tu vois.
Le monde impitoyable de la...
Genre,
de
je vends 400, ouais. Je vends 100 tomes. Il y a 100 tomes qui partent au pilon. Au final, j'ai généré zéro. Tu vois, c'est un truc de dingue.
J'avais pas cette info-là.
Il me semble que c'est ça, hein, si je me trompe pas.
Je te fais confiance.
Mais moi, dans mes redditions de compte, des fois, je vois, ça me compte comme des droits négatifs. Je génère des droits négatifs, tu vois. Malgré qu'il y a eu des ventes hein, dans le semestre.
Ouais, ils te font l'addition, ils te font la comptabilité. Ouais, c'est ça.
Et donc, si c'est important pour les. Vraiment, si vous êtes lecteur, si vous voulez soutenir une série, puisque de toute façon, si vous avez. Si vous comptez l'acheter de toute manière, achetez-le autant la première semaine. Vraiment, ça va faire une diff de dingue. Et c'est comme ça que voilà, vous avez plus de chances que la série elle puisse avoir au bout, sinon vous aurez une fin qui sera improvisée. Quoi. Ça vous demande 0 euro de plus. C'est juste que voilà, vous l'achetez la première semaine. Quoi.
C'est ça. Après, il faut que ça sorte dans le bon timing, qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est toujours évident le budget accordé pour le manga, et comme on l'a dit tout à l'heure.
Ouais. Après, aussi, vous pouvez toujours les précommander chez votre libraire. Donc ça, c'est... Et sans frais, en plus. Donc, c'est au lieu ça. De... J'en vois souvent des lecteurs, donc je répète à chaque fois, qui me disent « Oui, j'ai fait plein de librairies, je ne l'ai pas trouvé, le tome. » Arrêtez de vous embêter, vous allez chez n'importe quel libraire, même un qui fait pas de manga, et vous le commandez chez eux, ça vous coûte zéro, et ils vous le reçoivent dans la semaine.
Bien comprendre que les libraires hein, ils ont pas des surfaces extensibles illimitées quoi hein, donc mais faut pas hésiter à commander. Moi je sais qu'il y a beaucoup de séries que mon libraire n'a pas, et quand je lui demande bah la preuve hein, il avait pas ta série, je lui ai dit bah commande-moi le pack et puis voilà, mais la semaine suivante il l'avait reçu, tu vois, et je l'avais commandé la semaine dernière, on n'est pas une semaine près. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous aimez, je vais dans ton sens, hein, quand on aime un auteur, surtout pour le soutenir en local, moi j'ai aussi cette démarche-là, quand j'aime une œuvre, j'essaie de soutenir. J'ai un copain à moi qui vient d'être édité chez Dupuis là, pour sa BD, et ben, forcément, on achète son premier tome dès que ça sort, parce que ça lui donne un petit coup de pouce, et puis voilà, on est content de lui donner un coup de main, et puis voilà, ça fait marcher le business, quoi, en tout cas. Ouais. Le petit mot de la fin, c'est la petite note un peu rigolote sur laquelle je suis tombé. Alors, je n'y joue pas, mais on peut le dire que est-ce que c'est aussi un peu une forme de succès d'avoir un de ces personnages adapté en jeu vidéo ? Est-ce qu'on peut en parler aussi 2 minutes ?
Ah,
le fait
oui,
que tu as un de tes personnages qui se retrouve dans le jeu donc Crossfighter, hein, qui est édité par Ankama. Ce qu'on oublie de dire, c'est qu'Ankama, avant d'être une boîte qui fait de l'édition dans la bande dessinée et dans le livre, c'est avant tout un développeur aussi de jeux vidéo qui a fait fortune avec Dofus. Et c'est ce qui leur a permis derrière d'ouvrir cette maison d'édition que tout le monde connaît maintenant. Et... Et donc voilà, donc il y a Joe Kazuma qui est donc un des personnages de Crossfighter. est-ce que tu veux en toucher deux mots?
Oui, ben, Crossfighter, donc c'est un party game qui a été développé par Doria Games, donc qui est une, je crois que c'est une filiale de d'Ankama. Donc c'est comme un autre studio en gros qui a programmé ce jeu. Et c'est une sorte de mini Smash Bros isométrique où chacun a un perso, ça joue à 4 joueurs, chacun pour soi. Faut se taper, faut récolter un maximum de points au cours de plusieurs rounds. Et il y a plein de persos des différentes licences Ankama dedans, dont donc le Joe Kazuma de Space Punch, mais aussi Junk de Reaper, il y a Seth de Radiant.
C'est ça. Il y a tous tes collègues qui sont édités aussi sous le label.
De la BD franco-belge aussi, d'autres mangas. Et puis, bien sûr, il y a les personnages du Crossmose, donc les persos de Wakfu, persos de Dofus, persos de Waven. Et perso des films d'animation qu'ils ont pu faire
ça.
Et autres mangas ou webcomics ça c'est varié donc c'était dans mon contrat que je cédais les droits audiovisuels donc en fait j'ai découvert le truc comme ça voilà donc c'est sûr que c'est chouette après bon le succès je le mesure pas trop à ça parce que j'ai pas vraiment
c'était pour la petite note d'humour
c'est la petite note d'humour on va dire j'ai pas spécialement bossé pour et quand les gens viennent me voir ils me disent pas encore ah c'est vous l'auteur dont il y a le perso dans Crossfighter machin. Crossfighter c'est pas encore un succès
non c'est pour ça que j'ai terminé par ça
on en parle mais voilà c'est quand même sympa que le savoir que le perso il s'étend à. Il a une vie dans une autre forme, dans un autre média, quoi. Et ça sort du cadre de la BD, il a de la vie dans un jeu vidéo, ouais. Donc c'est chouette.
Pour ceux qui veulent, c'est dispo donc sur PC et Switch, si je dis pas de bêtises. C'est ce que
Switch, pas encore, mais c'est dispo pas sur encore Steam.
Ok, c'est pas encore sorti sur Switch, parce que j'ai vu des trucs comme quoi.
Il n'y a pas de date prévu. Encore, mais c'est prévu sur Switch, mais il n'y a pas de date. Mais pour l'instant, c'est sur PC et peut-être Mac. En tout cas, c'est sur Steam.
Ouais, c'est sur Steam, ouais. Dernière question. Est-ce que tu serais intéressé peut-être éventuellement un jour par une adaptation en animé, si tu le peux? C'est quelque chose qui t'intéresse, ça?
Bah oui, bien sûr. Bah ouais, je dirais pas non. Mais après, ça dépend pas de moi.
Ah, mais ça s'y prête bien. T'as un manga qui, pour le coup, en termes d'action, etc., pourrait être ultra quali aussi en animé. J'imagine bien l'ambiance que tu peux donner. Ça pourrait aussi avoir son petit charme. Et on sait qu'Ankama travaille aussi un petit peu dans l'animation. Ça pourrait.
Déjà, c'est pas Ankama qui a fait l'animé Radiant, donc je pense pas. Niveau animation,
je pensais pas à Radiant. Hein. Je pensais plutôt à tout Wakfu, etc. Enfin, tous ces. Voilà.
Pour leurs autres mangas, ils ont pas fait eux l'animé, tu vois. Je pense que ce sera un autre studio. Hein. Okay. Il le ferait, je pense pas que ce serait Ankama si jamais ça arrive, mais déjà pour que ça arrive, pour qu'il y ait parce que ça coûte des millions, faut qu'il y ait matière à faire, et je pense que faut déjà qu'il y ait assez de tomes, donc s'il y a, ça serait faudrait qu'il y ait au moins 10 tomes pour qu'il y ait un animé, je pense. Et pour qu'il y ait 10 tomes, faut déjà que le manga papier il marche bien, donc faut déjà que les lecteurs ils soient au rendez-vous, et
c'est ça. Non, mais c'est dans tes rêves les plus fous. Est-ce qu'un animé, ça te chauffe? En tout cas, ouais.
C'est sûr. Cool. Moi, je dirais pas non. Okay. Après, pour l'instant, mes objectifs, c'est plutôt... déjà, si je peux aller ne plus me soucier du nombre de tomes, c'est déjà un premier succès.
Ouais.
Aller jusqu'au bout sans prendre la tête, sans me limiter, c'est vraiment une première réussite, quoi. C'est le premier objectif.
C'est tout ce qu'on peut te souhaiter, en tout cas. Écoute, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup, Zed, pour ta présence sur cet épisode. J'espère, en tout cas, vos auditeurs, que ça vous aura plu. Pour terminer, où est-ce qu'on peut te retrouver, même si je pense que c'est assez facile, mais sur où est-ce que tu es le plus présent
Alors, là où je suis le plus présent, donc sur les réseaux, en dehors des dédicaces, donc c'est sur Instagram. Donc, c'est vous tapez @zd.corp et puis sur Twitter également, zd.corp aussi, il me semble. Hein.
Underscore,
ouais.
Ouais, je le vois sur ton manga parce que c'est.
Bien vu, zd_corp. De toute façon, si vous écrivez zd sur Twitter, vous allez sûrement me trouver dans les premiers résultats. Oui, il y a mes réseaux sur la jaquette à chaque fois. Donc voilà, et suivez-moi surtout sur Insta parce que je poste souvent des stories avec des petites cases, l'avancement du tome en cours. Voilà, donc c'est là que ça se passe.
Eh bien, écoute, super. Écoute, merci encore pour ta participation. Puis on encourage les auditeurs à aller découvrir au plus vite Space Punch. Et puis nous, on se retrouve dans un prochain épisode. Ciao tout le monde! Alors oui, il y a une bonne nouvelle, puisque grâce aux éditions Ankama et AZ, je peux vous proposer un super concours pour vous faire gagner 2 exemplaires du tome 1 de Space Punch. Et ça, c'est vraiment super cool quand je peux associer un épisode où on parle d'une œuvre avec la possibilité de vous faire gagner le manga derrière. Bah franchement, ça c'est vraiment cool et ça fait super plaisir. Comment ça fonctionne ? Eh bah c'est très simple, je vous donne rendez-vous ce soir à partir de 18h, 19h, ça va dépendre de ma dispo, sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, pour justement participer au concours et tenter de gagner 2 exemplaires du tome 1 de Space Punch. Pour ça, rien de plus simple, il faudra donc s'abonner au compte de ZD ou Z et d'Ankama, celui d'YPDLM, liker, retweeter, et puis c'est à peu près tout ce qu'il faudra faire. Et ensuite, bah, croisez les doigts pour justement être tiré en sort et remporter le tome de Space Punch. Voilà, et bah, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.